Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour, donc après la voix charmeuse, Monique, comme d'habitude, Serge au micro. Aujourd'hui, Nicolas n'est pas avec nous, mais il va bientôt nous rejoindre pour d'autres émissions. Voilà, donc vous savez, comme d'habitude, je vais lire une petite entrée pour expliquer de quoi on va parler avec notre invité Arthur Gerber qui se présentera un peu plus longuement. Voilà, donc la fabrique du progrès, scientisme, système technicien et capitalisme vert de notre invité, donc Arthur Gerber, correspond à un long travail qu'il a réalisé pour analyser le rôle des sciences dans l'évolution de nos sociétés. Il souhaite contribuer à éveiller notre sens critique face aux discours dominants. Il remet en cause une certaine vision du progrès liée à une philosophie linéaire et finalise l'histoire dont le marxisme s'est nourri pour tenter d'imposer sa vision du socialisme scientifique, avec des guillemets. Aujourd'hui, le capitalisme occidental, vantant les bienfaits miraculeux de la technologie, substitue à la foi religieuse vieillissante une foi scientifique moderne, le scientisme. Le sujet de cet ouvrage est d'une actualité que chacun peut constater, dans laquelle s'accélère chaque jour la dérive technocratique du pouvoir. Ainsi, pour Arthur Gerber, le déploiement effréné des technologies numériques par les industriels et l'État constitue la plus grande menace sur les libertés. Citation. Dans une première émission, il avait échangé avec nous sur le développement du capitalisme vert, la naturalisation des problèmes sociaux et la culpabilisation du consommateur afin de le faire accepter une gouvernance environnementale globale. Il revient dans notre studio pour analyser l'histoire des sciences et leurs limites, ainsi que la façon dont s'est installé le mythe d'une technologie progressiste au service d'une synergie entre capitalisme et science. Voulons-nous d'un monde produit par l'algorithmisation de nos vies ? Point d'interrogation. Alors, je ne sais pas si on va répondre à cette question aujourd'hui, mais en tout cas, on la renvoie aux auditeurs, parce que chacun, je pense, est concerné par les échanges qu'on va avoir aujourd'hui. Et je renvoie aussi à cette émission là, que j'ai évoquée là, sur notre site. Vous faites Trou Noir au pluriel, Radio Libertaire, et vous aurez accès à toutes les émissions, dont celle la précédente. Voilà. Donc, bonjour, on est content de te voir. D'autant plus que vous ne savez peut-être pas, mais Arthur habite dans la région lyonnaise. Donc, voilà, il a eu l'occasion de revenir aujourd'hui. On avait déjà programmé ça un petit peu à la fin de la première émission. On est content de te voir. Donc, peut-être que tu te présentes assez rapidement et puis on verra un petit peu à travers mon propos et puis l'introduction dans le livre, quel était ton objectif avec ce livre, voilà.
Eh bien, bonjour. C'est encore un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui pour pouvoir discuter de tout ça. Tu as bien introduit le sujet. Bon, la présentation, on l'avait déjà faite un peu lors de la première émission. Mais donc, moi, je suis médecin. Je suis issu d'un milieu plutôt scientifique avec l'enseignement un peu classique des sciences qu'on a, qui justement ne met pas trop en discussion toute la complexité de l'activité scientifique dans ses interactions avec les questions politiques, sociales, économiques, et on nous vend plus une vision des sciences complètement hors sol. Et donc le sujet de mon livre, c'était ça, c'était de travailler ces questions-là et d'essayer de comprendre un peu les enjeux qui se cachent derrière le masque de la neutralité scientifique. Et donc ce qui est important de dire, et tu l'as un petit peu dit, tu as utilisé le mot qui est celui de scientisme, c'est un peu de faire la part des choses entre entre les sciences en tant que telles, qui ne sont pas l'objet d'une disqualification dans le livre, hein, c'est pas ça l'objet. Le cœur de la critique du livre, c'est le scientisme. Hein, donc c'est la science dans son absolu, dans l'idée que la science soit la solution à tous nos problèmes. Et donc c'est ça qui est attaqué. Et pour s'attaquer à cette question-là, il faut comprendre ce que c'est que la science, en fait. Hein. Et donc le scientisme, lui, affirme en fait l'universalité de l'approche scientifique, la légitimité à édicter ce que serait qu'une vérité absolue, une représentation un peu uniciste du monde à travers une méthode scientifique qui serait univoque. Et donc ça, le lien avec la philosophie libertaire, pourquoi c'est publié aux ACL, c'est qu'effectivement derrière, il y a un impact politique qui est central. Hein, c'est que dans ce référentiel scientiste, les désaccords humains résulterait forcément d'une erreur de méthode scientifique, hein, et non pas d'une pluralité de pensées ou d'actions, ce qui est quand même sacrément inquiétant. Et donc, ça voudrait dire que par l'éducation, on pourrait s'affranchir des désaccords humains et donc des différences de jugement. Là où c'est inquiétant, c'est que par conséquent, ce qu'on peut en déduire, c'est que ça permettrait une gestion rationnelle, incontestable de la société, une rationalité politique, hein, où le pouvoir serait aux savants, et non plus à la collectivité. Et ça, c'est le technocratisme, et c'est le discours aujourd'hui qui est omniprésent et qui monopolise le débat public à travers l'expertise. Et donc, c'est cette critique du scientisme et du technocratisme qui aboutit en fait à une réflexion sur finalement qu'est-ce que c'est que la science. Parce que sans la comprendre, en fait, on ne peut pas désamorcer ce discours-là qui a risque de dérive un petit peu autoritaire.
Oui, juste de réaction rapide par rapport à ce que tu soulèves, qui me paraît essentiel. Alors première information, réaction. Ben, peut-être que toi tu connais, mais moi j'ai eu la chance, oui, on peut dire, d'approcher quelqu'un qui s'appelait. Je dis s'appelait parce qu'il est décédé il y a quelques années. Alexandre Grothendieck, qui était un mathématicien hors pair, enfin, certainement t'en as entendu parler, et ouais. Qui avait été amené dans les années 70 à créer une association qui s'appelait au départ Vivre et appelée Survivre et Vivre, donc à laquelle j'ai participé. Et je me souviens très bien qu'au-delà des interrogations qui se posaient, par rapport à l'environnement, par rapport au nucléaire, par rapport à ces choses-là. Une des, je veux dire, phobies presque, parce que pour lui, quand il disait prononcer ce mot, c'était le scientisme. Mmh. Et vraiment, pour lui, c'était vraiment le truc à combattre, absolument. Et pourtant, c'était un scientifique, justement, peut-être parce que c'était un scientifique, un vrai scientifique de haut niveau. Il connaissait très bien le milieu scientifique, pas qu'en France. Hein. Il faisait des voyages aux États-Unis, etc. Donc c'est vraiment un problème, y compris que dans les milieux scientifiques, des gens se posent, quoi. Donc ça, c'est une deuxième chose. Alors, plus proche de nous, je pense que là aussi, tu connais peut-être, il y a un collectif, enfin, monté par notamment un journaliste scientifique, qui est donc avec un site que j'engage les auditeurs à lire. Il s'appelle Science Critique. Alors, je suis pas forcément d'accord à tout ce qu'il y a, mais c'est pareil, c'est dans les milieux scientifiques ou autour qui se posent la question, les questions que tu soulèves, en fait. Ça revient complètement à ça. Donc, c'est pas les choses qu'on échange aujourd'hui, c'est pas quelque chose comme ça, dans un petit secteur. Bon, ça y est, on a fait une émission là-dessus, après on va passer à autre chose. Je pense que c'est quelque chose qui, enfin, tu l'as dit d'ailleurs, qui concerne tout le monde, parce qu'on va le voir un petit peu dans les échanges. Ça concerne notre vie quotidienne, ça concerne des choses qu'on nous met dans la tête des fois des tout jeunes, enfin, qui ont un impact fort sur ce qu'est l'humain aujourd'hui. C'est ça. Enfin, de toute façon, tu le développes. Voilà, bon, c'était un peu les deux remarques. Remarque, c'est pas une remarque, ça conforte un petit peu le travail que tu as pu faire. Et moi, je suis vraiment étonné de la qualité de. Enfin, je dis pas ça parce que tu es là, hein, je l'ai dit en ton absence, du travail et d'utilité que tu as fait. Donc, j'engage vraiment les auditeurs qui se sentent concernés à acheter ce livre, et puis aussi à réfléchir un petit peu sur tous les problèmes soulevés, parce que ça vous concerne. Je dis vous, c'est les gens qui nous écoutent, et ça concerne aussi ceux qui ne nous écoutent pas. Mais bon, cela, on ne peut pas grand-chose pour l'instant. Voilà. Donc, je ne sais pas, dans l'introduction, est-ce que tu voulais compléter quelque chose? Bon, moi, j'avais lu, par exemple, que tu disais que... une chose qui m'a bien plu, mais bon... Qu'en fait, il y a eu substitution d'une foi religieuse vieillissante par une foi scientifique, moderne, aveugle et tout aussi nocive. Donc, deux points, le scientisme.
Ouais, c'est ça. Hein.
Tu revendiques toujours cette phrase, je suppose.
Ouais, bah, tout à fait. Ça me rappelle une autre phrase qui est de Jacques Ellul, hein, qui nous disait qu'en fait, l'asservissement, il n'était pas lié à la technique en tant que telle, mais au sacré transféré à la technique. C'est une citation classique, mais c'est un peu la même chose avec le scientisme, quoi. En fait, le problème, c'est pas la science en tant que telle, c'est le sacré transféré à la science. C'est l'idée d'une science toute puissante. Hein. Et donc, c'est ça le cœur de cette idéologie scientiste, hein, qui est attaquée dans le livre. Et encore une fois, l'angle d'attaque, c'est de comprendre concrètement, en fait, ce que c'est que l'activité scientifique, pour la démystifier, en fait. Hein. Non pas pour la disqualifier, mais pour la démystifier. Et donc, un des angles d'attaque qui est privilégié, c'est notamment ce qu'on appelle l'histoire populaire des sciences, qui permet d'historiciser la question de la science et de mieux comprendre. Et donc, c'est un travail qui s'insère plus globalement dans ce qu'on appelle l'histoire populaire, qui est une certaine pratique de l'histoire, hein, une histoire par en bas, qui est centrée sur l'action collective, impersonnelle des gens ordinaires et qui s'oppose à ce qu'on appelle l'histoire encomiastique. Encomion, c'est l'éloge, donc l'éloge des grands hommes, faiseurs d'histoire. Donc ça, c'est une approche qui est marquée par les travaux d'historiens comme Edward Thompson en Grande-Bretagne ou Howard Zinn aux États-Unis, qui nous ont un petit peu cassé cette vision encomiastique, élogieuse des grands hommes. Mais ce biais, en fait, d'histoire élogieuse, elle est également présente dans l'activité scientifique, hein, qui nous donne une science comme l'accumulation de connaissances pures, l'action et le produit de génies talentueux de Copernic à Newton qui nous auraient délivré la vérité à travers leurs grandes découvertes. Mais cette vision, elle est simpliste, vraiment. Elle est abandonnée d'ailleurs par les historiens des sciences depuis longtemps. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'inverse, elle s'est enquistée dans la culture populaire. C'est toujours cette vision du cadeau de la vérité scientifique par les grands hommes qu'on garde en tête. Et ça, pour plusieurs raisons. D'abord, l'histoire des sciences, par le passé, elle a été écrite très souvent directement par les scientifiques qui, par intérêt corporatiste ou au moins par naïveté, ont présenté une vision un peu magnifiée de leurs prédécesseurs. Ensuite aussi, réduire l'histoire à un individu, ça permet de faciliter son apprentissage. Donc il y a aussi une sorte de paresse intellectuelle qui omet la complexité historique au profit d'une analyse psychologique des grands auteurs, des grands hommes. Ça permet de simplifier aussi la compréhension des choses. Puis après, il y a aussi le fait que la première préoccupation du scientifique, contrairement à l'historien, c'est pas l'exhaustivité historique, mais c'est l'efficacité du contenu scientifique. Et donc, il y a une vision un peu étroite et amnésique de l'histoire de la part des scientifiques qui négligent les impasses de recherche et qui met toujours en avant les réussites de la science, hein, et pas les inconvénients, pas l'ambivalence de l'outil. Et donc, ça donne une vision qui est biaisée vers le positif de ce qu'est l'activité scientifique et ses impacts. Puis ensuite, plus concret, individualiser le progrès scientifique dans des grands hommes, ça permet aussi de légitimer le régime d'appropriation des savoirs qui est le nôtre aujourd'hui, hein, à travers la propriété intellectuelle. Parce que si jamais la science est le fruit de cerveaux géniaux, à ce moment-là, ils ont tout le mérite de récolter les fruits de ce travail. Et donc, il y a cette légitimation de la propriété intellectuelle aussi à travers ce récit élogieux des scientifiques.
Oui, d'accord. Pareil, enfin, c'est pas un complément, mais d'ailleurs, parce que ce que je vais dire, je crois que tu l'abordes un peu plus loin dans le livre. Dans cette assimilation, si tu veux, aux grands hommes scientifiques, aux vérités qui tombent, qu'on doit apprendre, qu'on doit suivre, évidemment, puisque c'est des vérités, par définition, on n'y prend rien. Au détriment, effectivement, de recherche personnelle, de savoir qui peut se passer d'individu à individu ou de collectif à individu, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi pour que les gens réceptionnent cette caricature, en fait, d'une certaine école, hein, je ne veux pas généraliser, mais enfin, ça commence un peu comme ça. Moi, si je prends mon exemple, moi, dans un premier temps, l'histoire, ça ne m'intéressait pas. J'apprenais des grands hommes, des dates, je ne comprenais pas ce qui se passait, je vais apprendre ça comme ça, et donc j'avais fait un blocage, jusqu'au jour où je tombais sur un prof qui, et au contraire, maintenant, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Bon, ça, c'est une première chose. Et pour la science, c'est pareil. L'approche qu'on a, moi, je ne sais pas, on devrait faire quand on... Enfin bon, peut-être que ça se fait par certains profs aujourd'hui, je ne sais pas. Mais avant d'apprendre des choses qui sont peut-être utiles, etc., montrer un peu, faire un peu d'histoire des sciences, ne serait-ce qu'un ou deux cours, tu vois, pour démarrer l'année. Les mômes, ils comprendraient qu'on a des choses à apprendre, bien sûr, mais qu'en fait, ça nous sert peut-être telle chose, mais peut-être ça a évolué dans le temps, peut-être on va trouver d'autres choses plus tard qui vont faire que, enfin, etc. Leur donner une notion de un peu de relativité et de réinjecter de l'individualité, si tu veux, dedans, quoi. Bon, je sais pas, enfin, je sais que tu en parles plus loin dans le livre, mais moi, je suis assez sensible à ça, parce qu'en fait... on peut pas se contenter de critiquer. Enfin, si, il faut critiquer, mais dire il y a des gens qui utilisent la science pour l'État, pour l'armée, pour être en avant, pour avoir du fric, etc. Mais ce qui est essentiel aussi, c'est pourquoi ça marche. Enfin, est-ce que ça marche et comment ça marche et comment les gens qui subissent ces choses-là l'acceptent. C'est un peu ça aussi l'objet de ton livre. Hein.
Ce qu'il y a, c'est qu'on nous sert un peu une vision hors sol de ce qu'est la science à l'école, et notamment dans les milieux scientifiques, on nous présente une vision très abstraite de ce qu'est la science. D'ailleurs, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est que la science, finalement. Et en fait, là, on voit qu'on est passé d'un discours classique sur les sciences qui était influencé historiquement par l'épistémologie, c'est ce que je développe dans la première partie du livre. Donc l'épistémologie, c'est la philosophie des sciences. Et donc historiquement, le discours sur la science, il était porté par cette épistémologie et il était normatif. C'est-à-dire que ça devait nous dire ce que la science doit être. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne science? Et en fait, on est revenu de ce discours-là pour se centrer sur des études sociales sur les sciences qui étaient plus empiriques et qui fournissaient un discours descriptif qu'est-ce que c'est que la science, mais sur une vision empiriquement fondée, la science telle qu'elle se fait. Et c'est une vision qui est beaucoup plus réaliste. Hein, et les questions, c'est plus de savoir comment, au sein d'un univers abstrait, peuplé de concepts univoques, les propositions scientifiques en deviennent vraies, sur un plan logique, épistémologique, hein, mais de repérer d'abord comment la légitimité, qui est d'abord controversée, est négociée au sein de la communauté savante pour créer du consensus. C'est le projet de ce qu'on appelle la sociologie de la connaissance, qui est porté par notamment l'école d'Édimbourg, des sociologues comme Barry Barnes, David Bloor, qui ont travaillé sur ces questions. Hein, comment en fait, le champ social vient interagir pour intégrer des déterminants sociaux dans le contenu même de l'activité scientifique. Et puis, dans une deuxième partie, c'est de comprendre comment de la décrire, hein, au niveau micro-sociologique, comment des énoncés, des objets, des pratiques scientifiques se produisent, s'imposent, se déploient matériellement dans l'espace, dans le temps, à travers des agencements techniques, sociaux. Et ça, c'est ce que la sociologie de la traduction appelle les réseaux sociotechniques. C'est d'étudier, en fait, la science en pratique, qu'est-ce que c'est matériellement. C'est pas un discours abstrait porté par les épistémologues, c'est en fait... quel agencement matériel, social, technologique est nécessaire en fait pour produire le contenu scientifique. Et ça, c'est une vision plus intéressante qui sort en fait de l'abstraction qu'on nous sert et qui nous permet pas de comprendre concrètement et qui du coup nous permet pas de nous intéresser à ce qu'est la science, parce que dans cette vision abstraite, la science, elle a pas d'histoire vu que c'est un concept. Mais quand on la rematérialise ou quand on réfléchit au dissensus, à tous les enjeux de négociation sociale pour créer la vérité, ça en devient, ça ouvre plein de portes. Et c'est ça aujourd'hui les études sociales sur les sciences, ce à quoi elles s'intéressent.
Un aspect complémentaire, mais qui va ressurgir peut-être sous diverses formes dans les développements que tu vas pouvoir faire. Et en fait, moi, je suis très sensible à ça. C'est-à-dire... D'ailleurs, je crois que tu le dis depuis le début, ben bon, t'es un être humain, bon, je veux dire, l'origine de l'humain, je ne vais pas inventer très très loin, mais enfin, tu regardes la nature, tu essaies de la comprendre, tu regardes les animaux, tu essaies de la comprendre, tu regardes éventuellement les humains autour de toi, tu essaies de les comprendre, etc. Bon, et ça, on comprend très bien, c'est la soif de connaissance, mais je pense que là, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait un relatif avantage, c'est-à-dire que les gens qui faisaient cette démarche savaient très bien que l'univers est immense et qu'il y avait des tas de choses qu'ils ignoraient, certainement. Et ça, c'est à la fois quelque chose qui gêne, mais en même temps qui est peut-être utile, parce que aujourd'hui on a l'impression que pour certains le réel qui est toujours aussi complexe, on a peut-être certains regards, on a pu les préciser à travers avec la science, justement, enfin un certain nombre de méthodes scientifiques, sachant que ces regards sont limités à une partie du réel, tout cet aspect là moi je pense que c'est très important de se rendre compte à la fois de nos limites et qu'on peut dépasser. Mais savoir qu'il y a des limites, c'est important, quoi.
Ouais.
Donc, le scientifique, il n'y a pas de limite. La science explique tout, quoi. Finalement, on est content, quoi. Il n'y a même pas d'effort à faire. Tout va bien, quoi. Tu vois. Donc, j'y suis assez sensible parce que je l'ai vu, y compris chez certains ingénieurs, qui croyaient qu'en faisant tourner des procédures ou des choses comme ça, on allait tout expliquer, le climat, le machin, enfin, tout ce... Bon, en fait, non. On a expliqué certaines choses. Et puis, on s'aperçoit que peut-être là, il y avait des erreurs, enfin. C'est ça, la science, c'est des avancées, des reculs. Et le scientisme met tout ça en l'air, quoi. Je ne sais pas si ça correspond un peu à ce que tu abordes en filigrane, quoi, dans ton livre.
Dans la radio me dit tu seras riche, et dans les écrans bleus qui s'allument le soir, un homme dit que c'est lui qui va changer l'histoire.
Le monde est si bancal dans les journaux du jour, il ne se souvient plus qu'on peut vivre d'amour. C'est dans ce monde là que tu manques comme ça. Qu'est-ce que je donnerais pas pour dormir avec toi.
D'humains qui surfent sur Internet, pourtant la solitude a rongé la planète. La Silicon Valley a déjà le programme qui inventera l'amour et remplacera les âmes.
Moi j'ai besoin de bras qui se pendent à mon cou, et je serre les poings en te cherchant partout. C'est dans ce monde-là que tu manques si fort. Qu'est-ce que je donnerais pas caresser ton corps. Ce monde lourd. Qu'est-ce que je donnerais pas pour dormir avec toi dans ce monde-là. Ce monde lourd. Ce monde lourd. Ce monde-là, le vieux monde s'agite en nous vendant son âme. Nos rêves sont en fuite et nos cœurs sont en flammes. Et ma voix dans le fil de ce micro d'argent crie ton nom dans la ville. Mais est-ce que tu mens? Est-ce que tu mens? Noircissent les pages des dictionnaires,
Mais les gens qui se croisent ne savent que se taire. Ils guettent impatients sur leur boîte vocale. Un message codé de cet amour vital. Moi je rêve de ta voix, de ton souffle sur moi. De ma main posée sur le haut de tes bas. C'est dans ce monde-là que tu manques comme ça. Qu'est-ce que je donnerais pas pour dormir avec toi.
Vous écoutez Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Donc toujours avec Arthur Gerber pour une deuxième émission autour du livre La fabrique du progrès, scientifique, système technicien et capitalisme vert. Et puis, j'ai pas dit que c'était à l'atelier de culture libertaire, c'est ça ?
C'est... l'atelier de création libertaire, voilà. Oui, tout à fait.
Voilà. Donc, en fait, bon, la science, on a commencé à en parler dans la première partie, c'est pas du tout quelque chose comme ça à part qui nous tombe et qu'on doit apprendre à l'école et puis après qu'on doit écouter gentiment. C'est quelque chose qui est complètement lié à ce qui l'entoure, c'est-à-dire la société, les mouvements sociaux, pourquoi pas, le capitalisme, bon, si on est en société capitaliste, enfin, l'État, la politique, toutes ces choses-là. Donc, tu peux peut-être nous parler un petit peu sur cet aspect-là, hein, peut-être avec un aspect historique.
Ouais, bah c'est un petit peu ce qu'on abordait juste avant, c'est le fait qu'en fait, ces deux grands courants de la sociologie des sciences dont je parlais, elles ont été essentielles pour comprendre différemment l'objet scientifique et notamment ses intrications avec la société. Et donc les analyses historiques aujourd'hui, elles se focalisent plus sur la dimension spatiale du déploiement de l'activité scientifique et pas de la science dans son abstraction. Donc dans une sorte de géographie historique des sciences. Et donc elle conçoit la science plus comme les épistémologues le voudraient, avec des éléments logiques internes, mais comme un régime de production des savoirs et d'appropriation des savoirs. Et donc la science, c'est un vaste ensemble de relations qui traduisent des enjeux, des valeurs, des normes, et qui se matérialisent dans des institutions, dans des modes de gestion politique, qui se structurent dans des hiérarchies disciplinaires. Les sciences, en fait, elles sont applications, elles sont pragmatiques, opérationnelles, et elles s'insèrent dans des réseaux, des réseaux techniques, des réseaux de sociabilité. Et donc l'activité scientifique, en gros, ça se passe pas dans une tour d'ivoire. Les sciences modèlent l'existence individuelle et collective de nos sociétés, et à l'inverse, nos sociétés modèlent également l'activité scientifique. Et donc, cette idée de régime de production, ça montre en fait l'interdépendance des activités humaines, et le fait que la science n'est pas indépendante de l'espace social où elle prend forme, et que cet espace en fait imprime sa marque sur la conceptualisation de la réalité, qui est jamais quelque chose de donné, extérieur, de neutre, qui nous tombe dessus. La réalité, on la voit jamais directement, on se la représente. Et donc, ces représentations, elles sont modelées par notre espace social, par notre culture. Et donc on génère à partir de là des paradigmes qui permettent d'approximer et de comprendre ces représentations de la société de façon contingente, et incommensurable. Il y aurait différentes façons de comprendre ces choses et de les travailler. Et donc on voit que le milieu contextuel de la science, il n'est pas là pour corrompre la science, mais au contraire pour lui donner corps. C'est-à-dire que sans ce milieu-là, la science, elle n'existe pas. C'est pas un concept complètement hors sol. Et donc, la distinction épistémologique classique qui voudrait qu'il y ait d'un côté un contexte de justification qui serait porté par la philosophie des sciences avec tout un tas de principes rigides, et de l'autre un contexte de découverte qui serait presque un peu folklorique, quoi, où en fait on reprendra un peu d'histoire des sciences pour raconter des trucs, mais qui n'aurait pas de lien avec le contenu même de la science. En fait, cette séparation, on voit qu'elle est pas tenable ni intellectuellement, ni historiquement, en fait. La production des faits scientifiques, c'est un processus continu qui mobilise d'un seul tenant et le contexte et la justification. Si on veut un peu rendre ça plus concret, on pourrait donner des exemples de l'influence du contexte. Et la première étude contextuelle de la science, elle a été faite par un historien russe qui s'appelle Boris Essen en 1931, et qui s'est donc contexte de guerre froide quand même, historien soviétique qui réfléchit en fait au rôle du capitalisme sur l'influence qu'a eu le capitalisme sur la science. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi la théorie de la gravitation est apparue en Grande-Bretagne au XVIIe siècle. Et donc, il essaie de reposer le cadre des travaux newtoniens dans le développement impérialiste de la nation anglaise marchande, qui est dépendante des transports maritimes. Et la question, c'était donc pour cette flotte de la Royal Navy et puis la flotte commerciale anglaise, de savoir mesurer la longitude en mer pour pouvoir se repérer et prédire la localisation des bateaux. Et donc le Parlement anglais a émis un prix pour récompenser les travaux de celui qui arrivera à décrire les lois des mouvements de la Lune. Et donc c'est ce prix-là qui a permis de financer les travaux de Newton. Un premier exemple qui permet vraiment de voir cette intrication entre le contexte et puis le travail scientifique. Puis le deuxième, un peu classique en histoire des sciences, c'est la controverse scientifique entre Robert Boyle, qui est souvent moins connu que Newton, mais qui est pourtant un des pères de l'empirisme anglais, de l'Académie des sciences. Débat qu'il a opposé à Thomas Hobbes, qui est bien connu des anards. C'est ce philosophe qui prenait une vision un peu absolue de l'État, une vision assez autoritaire de la politique. Et donc ce débat, il a lieu au XVIIe siècle et concerne l'existence du vide en physique. Et donc ça, c'est une querelle qui oppose les plénistes, ceux qui affirment que le monde est plein de matière, aux vacuistes, qui affirment une part d'immatérialité dans le monde. Donc Hobbes est pléniste et Boyle est vacuiste. Et donc le contexte historique ici, il est primordial pour comprendre le contenu de cette controverse scientifique, qui est en fait liée à une surdétermination politique. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, l'immatérialité, c'est rattaché à l'immatérialité de l'âme. Et donc, prouver l'immatérialité, ça renforcerait le discours de la philosophie cléricale qui est portée par l'agitation révolutionnaire anglaise à l'époque. Et donc, c'est très intriqué à cette question, puisque la preuve de l'immatérialité, ça permettrait de renverser la hiérarchie matière-esprit, et donc le pouvoir souverain versus le pouvoir de Dieu. Et ça, on sait que c'est la préoccupation centrale de Hobbes, qui essaie de fonder la puissance d'un État séculier. Donc, on voit qu'ici, une controverse scientifique, physique, sur le vide, a en fait été déterminée par des considérations politique du temps et qui était purement historique.
Oui, parce que tu as cité l'Angleterre, ça quand même certainement, d'ailleurs je crois que tu l'évoques aussi dans le livre, bon, c'est quand même là, enfin en tout cas en Europe, l'industrialisation s'est développée, enfin en tout cas à grande échelle, et effectivement ça a eu un impact, y compris d'ailleurs sur les moyens peut-être scientifiques qui ont évolué, parce que parler de la science déjà en général comme ça, c'est aussi, il faut le situer par rapport à l'époque, à une certaine époque. Quand tu vis dans une époque donnée, tu es déjà un peu influencé par les savoirs de l'époque, savoir ou idéologie, ou etc. Et tu es aussi influencé en tant que scientifique par les moyens que tu as. Aujourd'hui, développer quelque chose dans un laboratoire, enfin ça dépend de ce qu'on étudie, mais quand même globalement, ça nécessite tout un tas de moyens qui passent notamment par l'informatique, par ces choses-là. C'est pas la même chose qu'il y a 2-3 siècles. En plus, ouais. Un scientifique, je pense que, enfin je pense que c'est évident, un scientifique de haut niveau pouvait avoir une vision, je dirais pas globale, tu vois, mais il n'était pas forcément confiné dans un regard particulier ou dans une science particulière. Donc il y a tout cet aspect-là qui est vraiment important, notamment dans l'histoire, dans l'analyse de l'histoire des sciences. Je crois que tu le traites d'ailleurs. Et en plus, une dernière remarque. Tout ça, c'était pas une autoroute, quoi. Il y a des gens qui ont résisté, il y a Ludith, tu cites. C'est quand même fort, parce qu'on a pratiquement retiré le savoir, voilà, au moins une partie du savoir, qui était ouvrier, qui pouvait être paysan. Bah, les paysans, ça s'est fait aussi en Angleterre, les enclosures, ça a suivi. C'est des choses qui sont dynamiques, quoi. Mmh. Je veux dire, on peut agir à la limite. Bon, c'est un peu une phrase un peu idiote, mais on peut agir sur la science, quoi. Je veux dire, on peut réagir contre des aspects qui ne vont pas et pour des aspects qui ne vont dans le sens de la connaissance. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec ça.
C'est peut-être un peu schématique,
mais.
Mais tu parlais du fait que voilà, cette activité, c'était le propre il y a 2-3 siècles, mais en fait, c'est toujours quelque chose qui... Cette influence contextuelle est toujours là aujourd'hui, même dans la production scientifique actuelle, quoi. Premier exemple, c'est ce dont on parlait la dernière fois, c'est la polarisation de l'écologie scientifique vers la modélisation des écosystèmes. Oui. Donc, t'en parlais l'autre fois, mais ça, c'est quelque chose également qui est un fort déterminisme historique et politique. Hein. En fait, c'est ce qu'on appelle l'écologie odoumienne. C'est cette approche par la modélisation, elle a été formatée par le contexte de l'après-guerre, par la théorie cybernétique, par la recherche opérationnelle. Et donc par cet état keynésien et puis le complexe militaro-industriel, et derrière c'était des intérêts politiques, économiques, c'était l'idée d'une approche utilitariste de la nature, du gouvernement, du pouvoir d'intervention sur l'environnement, de la prédictibilité économique aussi, pour asseoir la productivité écologique maximale, etc. Et donc on voit encore qu'en fait, ce dont on parle, c'est pas que le propre d'il y a 2-3 siècles, ce contexte, il vient encore formater la science actuelle. Puis la deuxième chose que tu as dit, c'est par rapport à ce côté collectif de la production scientifique et du savoir. Et ça, c'est justement le propre de ce qu'on appelle l'histoire populaire des sciences. C'est de comprendre justement la dimension collective, impersonnelle de la production du savoir et aussi les enjeux de pouvoir derrière la production scientifique, qui marginalise certaines classes sociales de l'organisation de cette production et de l'appropriation des connaissances. Et ça, c'est tout le cœur de l'histoire populaire des sciences que je développe après dans le bouquin.
Oui, alors je ne sais pas si ça, c'est exactement là dans le sens de ce qu'on échange en ce moment, mais il y a un film qui m'a marqué pas mal pour des tas de raisons et qu'on peut raccrocher, si tu veux, au lien justement entre une invention en technique, sans doute avec des recherches scientifiques, et l'impact social que ça peut avoir sur la vie des gens. Et tu le cites d'ailleurs, je pense, dans le livre, il me semble bien. C'est la mesure du temps, c'est-à-dire donc avec les horloges. Et le film, qui je ne sais pas si tu l'as vu, c'est un film de Cyril Choblin, qui a été fait sur la période de la Fédération jurassienne, donc parmi les horlogers, justement, là-bas. Et c'est un film vraiment extrêmement intéressant qui correspond un peu à ce que tu abordes là, ce qu'on échange un peu autour de ça. C'est-à-dire, mesurer le temps, c'est très bien, bon. Mais il y a pas mal de façons d'utiliser ça. Effectivement, les patrons l'utilisent pour du rendement, pour imposer les gens à un rythme. En plus, c'est quelqu'un qui vit là-bas, sa famille était dans l'horlogerie. Et en plus, on voit donc la transformation du travail, donc des individus, à travers ça. Et à côté de ça, il y a des horlogers qui ont une coopérative. Alors ça paraît de l'extérieur un peu le bordel, mais pas du tout, tu vois. À la fois donc ils comparent bien les choses qui sont en train d'évoluer. Donc là, il y a un lien direct entre une invention qui n'est pas en soi condamnable, quoi, mesurer le temps, hein, non, mais quand c'est mis dans les mains du patronat, on voit les conséquences que ça a, quoi. Je ne sais pas si tu l'as vu ce film, mais je
non,
le recommande.
Je ne l'ai pas vu.
Ouais, je te le recommande. D'ailleurs, il s'appelle, le titre en français, c'est Désordre, mais le type suisse. Alors, je crois que je ne sais pas comment ça se prononce, une rouche. Enfin, donc, ça veut dire le balancier. Tac, tac, tac. Et tu vois l'influence du balancier sur comment ça s'insère dans la vie des gens, des collectifs, etc. J'ai trouvé ça comme illustration très, très utile.
Ouais, bon, bah, après, ça renvoie aussi à cette idée du déploiement technoscientifique comme quelque chose de neutre ou d'aveugle, quoi. Et là, on voit qu'en fait, c'est pas le cas. Effectivement, comme tu le dis, il y a certaines techniques qu'il faut reprendre historiquement d'où elles viennent pour comprendre pourquoi elles ont émergé. Là, tu parles du temps, mais par exemple, l'historien David Nob qui a étudié les ludites, t'en parlais tout à l'heure, ça a été de voir comment les ludites, en fait, ne critiquaient pas les technologies telles qu'elles sont arrivées. Là, tu parles de l'horloge, de la mesure du capitalisme du temps. Mais en fait, les ludites, elles critiquaient le développement technique choisi par le patronat, justement, et l'utilisation qui en était faite. Là, en l'occurrence, les ludites, c'était l'opposition à l'apparition du métier mécanique qui bouleversait leurs pratiques de travail, de tissage traditionnel, et des savoir-faire qui étaient portés par ces corporations ouvrières. Et donc, ce qui montre, et c'est intéressant, c'est qu'en fait, cette technologie-là, ces innovations technoscientifiques, elles n'étaient pas portées, comme c'était invoqué, pour des raisons économiques, de productivité du travail, mais pour des fins politiques, en fait, hein, de contrôle patronal sur le travail. Toi, tu parles du temps, mais là, en l'occurrence, c'est un outil, le métier à tisser, qui servait à parcelliser le travail, à dépersonnaliser les savoir-faire, pour qu'en fait, le patron soit plus dépendant des compétences de l'ouvrier. Et donc, on voit aussi à quel point certaines innovations technoscientifiques servent là, en l'occurrence, à créer de l'hétéronomie dans le travail, c'est-à-dire du contrôle, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'important face à cette vision un peu aveugle qui nous vendrait une neutralité, en fait, hein, des déploiements technoscientifiques.
Oui, ben moi, c'est un exemple tout à fait simple. Hein. Quand j'ai commencé à bosser en 68, juste avant ce que tu sais, donc je trouvais du coup le salariat intéressant, puis on occupait la boîte. Enfin bon, c'est pas ça que je voulais évoquer. Ce que je voulais évoquer, c'est que dans les ateliers, le jeune qui arrivait, bon, il avait plus ou moins fait une école, mais il apprenait avec les compagnons qui étaient là. Et ça, c'est dangereux pour les patrons, parce que il y avait une force collective qui pouvait servir pour le travail, mais qui pouvait servir pour la revendication. Et cette notion de métier qui a été cassée, elle a été cassée partout. Elle a été cassée dans les ateliers. Elle a été cassée même quand on regarde aujourd'hui dans un certain nombre d'ingénieurs par rapport au travail d'ingénieurs, etc. Elle a été cassée au niveau des paysans, parce que c'est quand même une force d'avoir un métier. J'appelle métier au sens fort du mot. Tu vois, et des choses que tu peux retransmettre aux plus jeunes, etc., y compris collectivement. Mmh. Et ça, une deuxième remarque sur ce que tu évoques, mais qui n'est pas du même niveau, quoique. Moi, j'ai eu pas mal de discussions avec des Kanaks, à l'époque, là, à grande époque, ils nous disaient, mais nous, on n'est pas contre les innovations techniques, on nous présente comme des sauvages qui vivent dans la nature, n'importe quoi. Par contre, notre collectif, c'était des Kanaks qui vivaient sur les îles, là, les quatre îles, ils disaient, mais non, dans ce qui est nouveau, on veut voir ce qui nous va, quoi, par rapport à notre mode de vie, tu vois. Ouais. Donc c'est pas noir blanc, quoi. Je veux dire, c'est pas on va rejeter toutes les innovations. Par contre, il y a certaines innovations qui correspondent pas à notre conception de l'humain, ou en tout cas de la vie collective qu'on a envie de mener, quoi. Moi, je trouve que c'était tout simple comme réaction, hein. Il a dit, mais il y a des choses qui peuvent nous intéresser, etc. Mais c'est nous qui allons juger si on en a besoin vraiment ou pas.
Ouais, c'est-à-dire de l'innovation qui émerge du travail du bas, de la confrontation avec les réalités de terrain par les travailleurs. Et historiquement, en fait, l'innovation technique, elle vient de là. C'est-à-dire que c'est la solution à des problèmes pratiques, des gens qui travaillent avec leurs mains autant qu'avec leur tête. Et en fait, c'est ça aussi, cette dimension collective du savoir. Hein, on peut citer les exemples de tous les savoirs botaniques qu'il y avait. Chez les Indiens, quand on est parti découvrir, entre guillemets, le Nouveau Monde, on voit que les molécules pour traiter le paludisme, c'est par exemple la quinquina, qui était une plante traditionnelle des Indiens qui l'ont fournie aux Européens. Pareil dans l'artémisine, qui est en fait un dérivé d'une plante qui est connue par la médecine chinoise depuis très longtemps. Enfin, toutes ces pratiques. Puis on peut aussi imaginer l'astrologie, qui est utilisée par les arpenteurs, par les marins pour se repérer. Il y a toute une dimension en fait de la production des savoirs qui vient de là. Et donc, ce qui est même intéressant, c'est qu'au-delà d'avoir produit les connaissances empiriques sur la nature, cette dimension collective et cet empirisme un peu populaire, il a même été matière à ce qu'on appelle la révolution scientifique. C'est-à-dire que ce monde des artisans qualifiés, ils ont été en fait responsables de cette mutation, dans une reconfiguration en fait du rapport au savoir. Ce que la philosophie des sciences appelle la première séquence épistémologique, c'est-à-dire empirico-inductive, c'est-à-dire l'approche expérimentale elle-même, puisqu'il faut se rappeler qu'à l'époque, en face, c'était une philosophie scolastique qui marchait sur une vision, une démarche rationaliste, idéaliste, qui était fondée dans les bouquins, en fait. C'était le savoir livresque, l'autorité des auteurs classiques, Aristote au premier plan, et donc la scolastique a été détachée de l'expérience du monde, et même pire, elle méprisait les connaissances manuelles parce que c'était gage de servilité. Et donc on voit qu'en fait, c'est les progrès techniques portés par les corporations de métiers, fruits de millions de praticiens anonymes, qui ont en fait porté cette culture, qui a été diffusée d'ailleurs pas dans les sphères savantes scolastiques, mais dans des manuels techniques diffusés grâce à l'imprimerie, qui était portée par les corporations de métiers. Et donc ce passage de l'empirisme populaire entre guillemets à l'empirisme scientifique, en fait, il est si progressif, même historiquement, qu'il est imperceptible, et que la révolution scientifique, comme changement de méthode, comme le voudraient les épistémologues avec leurs règles rigides, il a jamais eu lieu. Ce qui s'est produit, c'est un changement de régime de production des connaissances à travers une transition vers l'empirisme qui s'est fait dans l'académisation des sciences au XVIIe siècle, et puis à travers l'accélération de la communication scientifique aussi, qui a évolué avec les techniques de transport et de communication de l'époque. Et donc, la révolution scientifique n'a jamais eu lieu, même pire, parce qu'en fait, la méthode scientifique en tant que telle, elle n'existe pas, en fait. Ça, c'est la leçon de l'histoire de la sociologie des sciences, et aussi de l'impasse du projet de la tradition épistémologique classique de définir ce qu'est la science, en théorie. Là, on parlait de la falsifiabilité, ça c'était Popper, la reproductibilité des expériences, le fait de rester factuel dans les interprétations. On parlait tout à l'heure des hypothèses ad hoc, c'était ça, c'est le fait que, en fait, la science est censée rester factuelle, c'est-à-dire produire des théories qui cadrent avec les faits. Or, en fait, la science se permet des hypothèses ad hoc, c'est-à-dire quand les faits ne rentrent pas dans la théorie, elle se permet de tordre la réalité en rajoutant des paramètres pour que ça continue, que le cadre conceptuel persiste, en fait, et que le paradigme puisse survivre, ce que Thomas Kuhn appelait la science normale. Et donc, tous ces critères épistémologiques rigides, ils ont pas eu lieu, en fait. Et ce qui est rigolo, c'est de voir que même cette tradition de l'épistémologie, qui va de Bachelard à Feyerabend, en fait, alors qu'elle cherchait à légitimer la supériorité théorique de l'empirisme scientifique, de l'activité scientifique, en fait, ça s'est soldé par un échec, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à définir opérationnellement ce qu'est la science. Et en fait, c'est parce que la science est toujours peut pas être fixé, c'est pas une rationalité fixée a priori. Un bachelor, il disait, un discours sur la méthode scientifique sera toujours un discours de circonstances. C'est en fait l'idée que les principes scientifiques ne sont pas codifiables et que ça émerge toujours de pratiques scientifiques. Et c'est ça le cœur, en fait, de cet empirisme un petit peu populaire. Ça a été de changer la façon de faire et le rapport, en fait, à la nature.
Oui, c'est-à-dire que ça, je crois qu'on va faire une pause musicale, Monique. Ça inclut, c'est important parce que ce que tu dis, ça veut dire que ça permet une certaine dynamique, d'une part. C'est-à-dire de se dire, ben, tout n'est pas figé, on sait des choses jusqu'à présent, on a des modes d'explication, mais peut-être il peut y en avoir de nouveaux qui vont rajouter d'autres choses, etc. Ça, c'est un aspect important, quoi, parce que ça donne une espèce de liberté aux scientifiques et peut-être pas que. Et puis, d'autre part, ça permet aussi aux individus, bon, qu'ils soient artisans, qu'ils soient même dans leur domaine, d'essayer de réfléchir. Moi, je sais pas, ça peut peut-être encourager aujourd'hui encore s'il reste un certain nombre de paysans, sans connaissance des choses. Ben, ça, je parle de ça parce que je viens d'un peu de ce milieu-là, de pas attendre tout que dans des labos ou dans les drones qui calculent plein de choses. Enfin, il y a des trucs assez extraordinaires en ce moment. Je vais pas les détailler. Mais ça peut redonner de l'espoir aux paysans d'être paysans, de ces connaissances, certes, qui correspondent au domaine qui l'entoure, mais voire au-delà, pourquoi pas. Voilà, donc je crois que
c'est... Ce serait approprier l'organisation de la production du savoir, voilà. En fait, hein, qui aujourd'hui...
Et donc ça relance la liberté, ça relance dans la démocratie, au sens fort du terme. Un peu de musique, Manique.
Papy aristobraqueur, ont kidnappé la France entière. Ils nous l'ont bien fait à l'envers, façon gentleman cambrioleur. Du palais Bourbon à Bercy, ils se donnent de la peine. Petit arrangement entre amis, cumule des mandats à l'appel. Ne leur demandez surtout pas de passer la main en douceur. Ils n'abandonneront pas le combat, ni les petits fours et les chauffeurs.
Je vous demande de vous arrêter.
Au sommet de la République. Il fait, je vous demande, pour rester aussi longtemps aux manettes et aux commandes de ce pays qu'ils aiment tant. Ils savent qu'ils nous ont amenés jusqu'au bord du précipice. Eux seuls disent pouvoir nous sauver, eux seuls sont prêts au sacrifice. Ils aiment tant parler du peuple, rivalisant de bienséance. Moi je sais ce que les gens veulent, et moi je connais si bien la France. Ambitions, toutes égoïstes et personnelles. Un poste aux prochaines élections, législatives ou présidentielles. Ils nous parlent de vocation, de chemin, de destinée. Voilà bien leurs seules ambitions, égocentrisme et vanité. Je n'ai pas suivi vos études, je n'ai pas votre bagage. Je n'ai pas vos certitudes, ni même vos élans de langage. Avec des gens de mon espèce, on a un projet en tête. Vous faire passer à la caisse, vous envoyer à la retraite. Vous nous verrez débarquer à l'heure de l'apéro et les petits fous. Profitez bien du dernier banquet, ce sera un départ sans retour. Oh là, au sommet de la République, avec cigare et tapis rouge.
Vive la France!
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Toujours avec Arthur Gerbert, deuxième édition de l'émission, et première édition du livre La fabrique du progrès, scientisme, système technicien et capitalisme vert. Donc on traite ce qu'on avait pas traité l'autre fois volontairement, voilà. Bon, je l'ai dit en présentant l'émission. Donc, tu nous as parlé de diverses approches à la science, et on peut, éventuellement d'un pays à l'autre, éventuellement. Et en fait, on constate, dans la période moderne ou actuelle, uniformisation de la science, une espèce de chose qui s'impose comme ça, qui semble monolithique de l'extérieur. Comment tu peux expliquer ces choses-là?
Ouais, c'est vrai que si on a dit tout à l'heure que l'activité scientifique était toujours contextuelle et qu'il n'y avait pas de méthode absolue, du coup on peut se poser la question, finalement s'il n'y a pas de méthode scientifique, comment est-ce qu'on explique la stabilité et la reproductibilité dans les sciences? Et donc là on voit que la comparabilité en sciences, elle est l'objet d'un processus de normalisation qui permet de produire un noyau d'homogénéité dans les sciences. Et du coup, il y a une administration des conditions de découverte qui permet de produire cette reproductibilité dans l'espace, dans le temps des sciences. Et cette conformisation scientifique, elle est liée à plusieurs facteurs. D'abord, il y a une uniformisation culturelle dans les sciences. Ça vient notamment de la formation du champ scientifique avec sa communauté savante, ses relations internes, ses critères d'acceptabilité sociale, ses conventions, ses traditions, qui permet une reconnaissance entre scientifiques et qui est fonction notamment de leur capital symbolique qui est jugé sur des critères de compétences techniques, d'appartenance institutionnelle, de style de présentation, de nationalité, etc. Enfin, le fait que l'acceptation ou le rejet d'une expérience est plus lié au crédit accordé à l'expérimentateur qu'à son interprétation des preuves expérimentales. Labourdieu, il disait par exemple que c'est moins la force intrinsèque de l'idée vraie qui remporte la conviction que la force sociale du vérificateur. C'est ce que Chapin et Schaeffer appelaient la technologie sociale dans les sciences. Et on voit que les formes collectives de validation des résultats scientifiques, l'administration de la preuve, elle émerge dans les sciences expérimentales au XVIIe siècle, notamment sous l'action de la Société Royale de Londres, où il y a le poids du témoignage qui est important. Tel phénomène expérimental a bien eu lieu. Et ça, c'est placé dans les mains d'une assemblée de témoins de distinction socialement puissants. Il y a des nobles, des bourgeois, du clergé qui transitent dans l'Académie des sciences et qui sont là pour assister les procédures expérimentales et qui sont engagés dans un mode de certification des faits pour faire preuve. Alors ça, c'est pareil, c'est toujours quelque chose qui existe aujourd'hui, ces technologies sociales. On pense au comité de rédaction des grandes revues, au label institutionnel, au diplôme d'État, aux sociétés savantes, etc., qui viennent faire ce travail de certification et de capital symbolique. L'autre chose qui conformise les sciences, au-delà de cet effet un peu sociologique au sein de la communauté scientifique, c'est des procédures de normalisation administrative. La première, c'est la globalisation de la métrologie historiquement. La métrologie, c'est la science des mesures. Le fait qu'on ait homogénéisé les poids et mesures, le kilo, le litre, etc. Et ça, c'est l'objet de négociations interétatiques historiquement. Les conditions d'obtention de mesures généralisables, fiables, robustes, c'est en fait lié à l'exportation de normes métrologiques qui sont le fait des échanges commerciaux. Évidemment, un capitaliste qui investit, il a besoin de connaître des normes qui permettent de rendre intelligibles des contrats impliquant des quantités. Donc ça, c'est un rôle important des échanges commerciaux pilotes. C'est le cadre administratif, c'est la volonté de l'État de mesurer le social, ses populations, ses espaces. On pense à ce que Henri Lefebvre rappelait, la production de l'espace, c'est le fait que l'État a besoin de mesurer son territoire, et notamment de définir son assiette fiscale. Et donc ça a permis la globalisation de normes métrologiques. Puis l'autre processus qui est stéréotypé de cet ordre-là, c'est l'académisation des sciences. Et donc c'est l'institutionnalisation des sciences en tant que telles. le financement par le trésor royal. Et donc ça, c'est un phénomène, qui l'académisation, qui apparaît au XVIIe siècle, notamment la création de la Royal Society à Londres en 1660. Et là, c'est intéressant de voir, 1660, en fait, c'est quelques mois après la restauration des Stuarts, hein, Charles II, fils de Charles Ier qui s'est fait couper la tête par les révolutionnaires anglais. C'est lui qui crée l'Académie des sciences, qui institutionnalise la science. Et là, on voit le fait que la stabilité de la vérité face aux revendications des sectes religieuses révolutionnaires, c'est que l'idée de la stabilité politique engendre aussi l'ordre de la stabilité scientifique, engendre l'ordre politique. Petit lapsus. Et donc, il y a ce phénomène, il se passe en France dans les mêmes années. L'Académie royale des sciences à Paris, c'est 1666, sous l'effet de Colbert, et dans une politique plus générale de centralisation de l'État absolutiste, qui veut régenter l'intégralité de la vie du royaume sous Louis XIV. Et donc, l'académisation, c'est une sorte de transaction entre savoir et pouvoir, où l'État joue le rôle de garant institutionnel, d'entrepreneur de science. Et l'Académie a mandat royal, rôle d'arbitre pour décider qui et quoi a valeur scientifique dans le royaume. Ça passe notamment par des politiques de brevetage technologique, par des distributions de pensions aux académiciens, par une reconnaissance officielle de statut de savant, etc. Et on voit du coup que les académiciens obtiennent ainsi une place centrale pour contrôler la vie du royaume. Et ça, ça a fait émerger une conflictualité historiquement pour la légitimité de ce contrôle, justement, entre les académiciens et les corporations de métiers en France sur, en fait, qui possède les brevets, comment on s'approprie les savoirs des arts et métiers mécaniques, sur les droits aussi d'association, sur la production de ces savoirs techniques, etc. Et puis, le troisième paramètre qui a entretenu cette conformisation des sciences, c'est ce que la sociologie des sciences appelle les technologies de reproduction des faits. On le disait, la réalité, on n'y a jamais accès directement. On a besoin de se la représenter, on a besoin de produire des faits. Et ces faits, ils sont le produit de machines. Bachelard disait que les faits sont triés, filtrés, épurés, coulés dans le moule des instruments. Et donc, leur reproduction, elle est fonction de l'étalonnage et de la calibration des techniques expérimentales. La comparabilité des résultats, elle n'est jamais donnée. C'est une situation qui doit être créée par des négociations, des accords sur la standardisation des techniques, puis par la circulation aussi des machines, des hommes d'un labo à un autre pour harmoniser les pratiques. Et donc, après étalonnage, une fois que la technique qui permet la production des faits scientifiques, elle est fiable, ça devient une sorte de boîte noire. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'interroger ces opérations internes. Et la contingence des négociations autour des concepts scientifiques, des productions scientifiques, elle fait plus l'objet de débat, en fait. C'est un phénomène majeur, celui de la calibration, quoi. Si on donne un exemple pour fixer ces idées, on peut revenir sur la querelle d'avant dont je parlais, entre les plénistes et les vacuistes. Boyle, pour prouver l'existence du vide, il a fabriqué une machine qui était une pompe à air qui servait à vider l'air d'un contenant qui était hermétique. Sa machine, sa pompe à air, elle a été discréditée par ses opposants, ses contradicteurs, qui accusaient sa machine de fuir, de produire des artefacts. Du coup, dissensus, débat qui éclate dans la communauté scientifique sur la fiabilité de sa machine, sur la compétence des chercheurs, et du coup, il y a le processus de négociation qui s'ouvre sur la nécessaire calibration des machines, technologie de reproduction, sur celle de Boyle. Pourquoi Boyle ? Parce que c'est lui qui est directeur de l'Académie royale des sciences, technologie sociale, et donc tout le monde se met à harmoniser, à conformiser l'appareillage expérimental sur celui qui fait référence. S'échange de matériel, des voyages des scientifiques, etc. Là, il y a un historien des sciences que j'aime bien, qui a beaucoup travaillé sur la médecine, qui s'appelle Jean-Paul Gaudière, qui disait un petit peu dans ce sens-là que les savoirs, ils circulent pas parce qu'ils sont vrais, mais ils deviennent vrais parce qu'ils circulent. Il y a un petit peu cette idée-là, en fait. Et on imagine bien que si tels effets se produisent avec une pompe à air au XVIIe siècle, qui est fabriquée un peu à l'arrache par un scientifique dans son coin, on imagine les effets aujourd'hui de tels mécanismes sur la conformisation des techniques, etc., dans l'appareillage technoscientifique, avec les techniques modernes et puis la mondialisation actuelle, etc. Donc c'est un vrai facteur de conformisation, en fait, de la production scientifique.
Oui, ça me fait... Parce que tu développes, là, on sent quand même que Il y a un intérêt, alors peut-être pas identique, mais commun, hein, entre bon, une certaine conception de la science bien carrée, académicienne, etc., et d'avoir un État solide, etc. On sent très bien qu'il y a des liens, y compris dans les deux sens. Et moi, ça me fait penser à une chose que tu abordes, je ne sais pas si à ce moment-là, ou un peu plus tard, mais enfin, qui est de plus en plus évidente aujourd'hui, parce que bon... je suis chef d'État, ou t'es chef d'État, bon.
Non, ça va.
T'as plein d'humains à gérer. Un humain, c'est compliqué. On ne sait pas trop ce qu'il va faire, etc. Donc, il faut avoir une vision bien carrée de cet humain. Une approche. Alors bon, je dis pas qu'il n'y a pas que la science qui permet de l'approcher, mais quand même, on peut utiliser la science, par exemple la science des statistiques, tu en parles. Si on pouvait remplacer un humain par les chiffres qu'il représente, bon, un QR code par exemple, au hasard. Non, mais si tu veux, j'ai l'air de plaisanter, mais pas du tout. Je pense que c'est pas du tout... enfin, c'est compréhensible dans les gens qui gèrent l'État. Donc, qui gère des humains, il faut que ces humains soient bien connus, quoi, soient plus connus possible dans des cases bien bien carrées, quoi. Et ça, effectivement, la science ou en tout cas certaines parties de la science peut aider à ça. Et en plus, je pense qu'il y a un certain nombre de scientifiques qui y participent. Enfin bon. Enfin, ça, je décale un petit peu vers une période plus moderne, mais ça, c'est de plus en plus évident. Quoi.
Non, finalement, tu vois, même ce dont on parle avant, c'était déjà le cas là au XVIIe siècle. Mmh. Finalement, l'ordre scientifique est lié aussi à la stabilité politique. Bien en sûr. Fait, les deux ont évolué main dans la main historiquement. Mmh. C'est là, en fait, que la vision un peu naïve des sciences comme quelque chose d'hors sol est pas crédible, en fait, et empiriquement et historiquement est fausse. Ça a permis de mieux comprendre les études sur les sciences, ces intrications entre les différentes sphères de la société, notamment le rôle politique. Hein. Le sens commun, il voudrait qu'il y ait deux sphères séparées, hein, aux scientifiques, aux chercheurs, de produire la connaissance objective, d'éclairer par les décideurs par des avis, puis les politiciens devraient appliquer des décisions en lien avec l'état de l'art. Mais cette vision, en fait, elle n'est pas crédible, parce que, comme tu le dis, le politique, il interfère avec le social, notamment justement dans des volontés administratives. Et la politique, elle structure, elle donne corps à l'activité scientifique dans ces fins-là. Et à l'inverse, la science a aussi joué ce rôle-là, en fait, parce que pour coordonner les régimes d'observation scientifique, on produit aussi des nouvelles structures de gouvernance. Là, juste avant, je parlais des académies, etc. C'est-à-dire que les régimes d'observation des scientifiques, par exemple les académies des sciences, elles permettent aussi au pouvoir d'avoir un levier pour contrôler le social. Et donc c'est là où les deux sont inextricables, quoi. Une fois qu'on a dit ça, faut se méfier. Il y a un peu, en fait, il y a deux écueils un peu symétriques. Et on en parlait tout à l'heure de faire attention de pas jeter le bébé avec l'eau du bain quand on parle des sciences. Ce serait de quand on a observé cette intrication entre les sciences et la politique. Le premier, ça serait le truc un peu scientiste à la con d'affirmer naïvement le retour à une pureté des pratiques, à une autonomie scientifique un peu idéalisée, qui déplorerait le mélange des genres, la corruption de la science par la politique. On voit que ça tient pas la route au vu de tout ce qu'on vient de dire, puisque les deux sont consubstantiels, en fait. Par contre, il y a un écueil inverse qui est un peu symétrique, ça serait de dénier la spécificité de la science et en fait de réduire l'activité scientifique à un pur moyen politique, hein, comme s'il y a une compromission essentielle de la science et que la science n'était qu'un outil de domination, ce qui n'est pas non plus une vision crédible. Hein. Voilà, tu vois, donc ça, il y a un peu un entre-deux à trouver, finalement. Clairement, la vision scientiste de la pureté des pratiques, elle tient pas la route, mais il y a quand même un espace à la science comme une approche en fait qui est la meilleure argumentation possible fournie, qui se négocie dans une communauté sociale, mais c'est pas non plus hors sol la science, c'est pas un pur moyen politique. Quand on est face à une réalité, même si c'est une représentation de la réalité qu'on fournit, il faut pouvoir argumenter dans sa communauté pour mettre en avant sa vision des choses et pour expliquer et essayer de négocier apprécier pourquoi est-ce qu'elle est meilleure que les autres. Mmh. Donc ça, il y a une spécificité quand même à une pure réduction à un moyen politique de domination. Même si effectivement ça peut charrier quand même des logiques de domination à travers notamment l'institutionnalisation des sciences. Hein.
Mais est-ce que c'est pas un symbole, non, mais une réalité, si tu veux, de ce poids, enfin, de l'État, enfin, bon, du capitalisme, enfin, des patronats, etc., sur la science, ce n'est pas, illustré plus par ce qu'on peut appeler la technoscience. Alors, ça nécessitera un développement, je pense que c'est prévu que tu en parles, parce que ça fait partie du bouquin, et puis c'est quand même ce qu'on voit de plus en plus autour de nous. Moi, ça me gêne pas du tout de critiquer la technoscience et de dire la science doit toujours garder son côté recherche de connaissances, échange, liberté, proposition de nouvelles hypothèses, échange, enfin, etc., entre scientifiques, voire avec des non-scientifiques. Mais par contre, le côté technoscience, c'est plutôt, à mon avis, c'est quand même plutôt ça, qui est vraiment le plus proche de l'influence du capitalisme, de l'État, etc. quoi. Donc je pense, attaquant la technoscience, c'est pas pour ça que... Enfin, moi, en tout cas, je remets absolument pas en cause l'envie de comprendre où on vit, d'avancer dans tous les domaines. Hein, voilà.
Oui, c'est la question de la propriété du régime de production des connaissances. Quand on est tu parlais de l'atelier paysan, quand on est face à un problème concret agricole, comment est-ce qu'on produit du savoir sur la nature, des outils dont on garde la maîtrise? À l'inverse, la technoscience, quand on parle du CERN, de l'accélérateur de particules qui engage des milliards d'investissements, une technologie nucléaire avec des États pour les filières uranium, etc. En fait, on engage une échelle dans laquelle il y a forcément de l'hétéronomie, où on n'a plus la maîtrise dessus, en fait. Hein. Donc, il y a toujours la question de la maîtrise en fonction de l'activité scientifique qu'on choisit. Et c'est là où il y a une vraie place à la politique, en fait. C'est dans le choix des trajectoires technoscientifiques qu'on choisit, justement, pour garder la main sur ce qui a du sens, sur les questions qu'on veut se poser. Mmh. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'exhaustivité des sciences. On ne se pose jamais toutes les questions. On ne peut pas épuiser toutes les questions, on ne peut pas rechercher dans toutes les directions. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choix à faire, justement, sur ce qu'on veut développer, les systèmes technologiques dont on veut se doter, pour pouvoir faire la recherche. Et donc, il n'y a pas une technoscience, quoi, univoque. Et en l'occurrence, il y a aussi, à l'inverse, plutôt des technologies qui sont sélectionnées pour des intérêts capitalistiques, mais aussi de puissance d'État, qui sont tout sauf neutres, en fait, sur l'activité scientifique.
Oui, je vais développer un sujet que je connais un peu, tout à fait dans les échanges qu'on a, pour rester donc sur le point agriculture. Je vais prendre l'exemple des semences. Dans un domaine donné, le riz ou autre, enfin bon, si on regarde dans le monde, à un instant T, il y avait énormément de semences différentes, etc., bon, qui étaient adaptées au type de terrain, à tel endroit, à tel autre, etc. Et on aurait pu imaginer, d'ailleurs ça s'est fait, hein, il y a eu des échanges de semences. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont essayé des semences qui étaient en Asie du Sud-Est, voire pour voir ce que ça donnait. Bon, enfin, c'est ouvert, ça veut pas dire on est fermé uniquement parce qu'on a trouvé dans telle région, c'est le truc qui marche. Or, la recherche qui a fait intéressante, ça a été, bon, parce que derrière, il y avait justement des visions capitalistes, c'est-à-dire on élimine je ne sais pas combien, on va sélectionner celles-là parce qu'elles ont un rendement plus fort, mais elles n'ont pas forcément un rendement plus fort à tel endroit, donc il va falloir qu'on mette en ajoute des produits chimiques, etc. Donc c'est là que l'intérêt capitaliste et les recherches interviennent, quoi. Et donc on a viré tout le savoir paysan, tout simplement, je termine là-dessus, je pourrais en parler des heures, mais par exemple le remembrement, c'est-à-dire que avant mon grand-père, il savait que là, il fallait plutôt faire, mettre tel type de légumes ou autre chose, et là, vu que c'était des collines, bon, enfin bref, je rentre pas dans les détails. Avec le remembrement, on a fait des 100 hectares ou 200 hectares, et puis sur 200 hectares, on fait la monoculture. Donc, qui dit monoculture, agriculture, dit appauvrissement des sols, dit etc. Donc la science, les gens qui cherchent dans les labos, je dis pas qu'ils sont malhonnêtes, mais ils sont complètement pris dans ce système-là.
Tandis que monte de l'Afrique les cris des enfants affamés, v'là que je dois fermer boutique, me tirer, me casser, je suis dépassé. Comme mon père et les aïeux, j'avais de la terre à mes souliers, la tête en plein dans le ciel bleu, paysan c'était mon métier. Je suis qu'un pecno, qu'un bouseux, ça ne vaut pas plus aujourd'hui qu'un chômeur, même pas trop vieux, qu'une tribu d'Amazonie. Bien sûr, on prête à sourire quand on est issu des croquants, à peine si on ose dire qu'on aimait ses bêtes et ses champs. Nos jours pour se faire respecter, faut être ce qu'ils appellent un battant. Je suis pas du genre à rayer tous les parquets avec mes dents. Je suis qu'un pecno, qu'un bouseux, ça ne vaut pas plus aujourd'hui qu'un kurde assis près de son feu, qu'un instit en Algérie. Ouais, j'ai pas honte d'affirmer que j'aimais regarder au printemps les premières pousses de blé, les premiers bourgeons dans le vent. Et je pourrais pas oublier ma colline et mes bancs de brume. Paraît que les fleurs des prés, ça pousse pas bien sur le bitume. Je suis qu'un pecno, qu'un bouseux, ça ne vaut pas plus aujourd'hui qu'un mec qui se shoot en banlieue, qu'un pauvre qui crève à Paris. Labourer, semer, récolter, passer sa vie au cul des vaches, ça n'empêche pas de penser, doit y avoir des trucs qu'on nous cache. Quand trois quarts de la planète se bat autour d'un crouton de pain, qu'on m'explique pourquoi on me jette, qu'on me dise pourquoi je sers à plus rien. Je suis qu'un pecno, qu'un bouseux, ça vaut bien moins aujourd'hui qu'un de ces experts de mes deux, qu'un de ces énarques abrutis. La ferme était trop petite, ou bien trop grande, je me rappelle plus. Bref, y a bien fallu que je quitte mon tracteur, mes poules, ma charrue. Je vais donc me mettre à becter, bien emballé dans du plastique. Y a rien de mieux pour la santé, de la merde importée d'Amérique. Je suis qu'un bouseux, qu'un pecno, est-ce que je vaux ben c'est zéro. Comme un black dans son ghetto, comme un cul de chat à Rio. C'est sûr, dans quelques années, on fera un musée de mon domaine, où des paquets de tarés viendront passer la fin de semaine. Moi j'aurais rejoint dans la rue les sans-papiers, les sans boulot, ça fera qu'un exclu de plus, un jour il y en aura un de trop. Je suis qu'un pecno, qu'un paumé, ça ne vaut pas plus aujourd'hui que la parole de mon député, que la gueule de mon banquier pourri.
Trou noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Donc encore, je crois, on va dire deux séquences avec Arthur Gerber. Autour du livre « La fabrique du progrès, scientisme, système technicien et capitalisme vert ». Voilà. On avait un peu échangé tout à fait à la fin de la séquence précédente. On avait parlé de technotion, donc c'est peut-être le moment justement d'aborder une partie importante du livre, dans le titre, je crois, oui, c'est ça, « Le mythe d'une technologie rédemptrice ». Donc, le phénomène technique, voilà, donc on parle un peu... Parlons technique, voilà.
Alors la technique, ouais, c'est vrai que c'est un mot, quand on se dit mais qu'est-ce qu'il a écrit un bouquin sur la technique, finalement, de quoi on parle. C'est vrai que juste la technique déjà, si on veut la définir simplement, ça vient du grec techné, qui veut dire production, et si on veut la définir simplement, est technique toute activité qui est faite selon une certaine méthode pour atteindre un résultat. Et avec un objectif d'efficacité, quoi. Donc il y a cette idée d'un moyen pour obtenir une fin de façon efficace, quoi. C'est ça une technique. Ça peut être matériel, ça peut être immatériel, voilà. Et ce dont j'essaie de parler, c'est que souvent il y a une vision un peu comme dans la science. Finalement, nos techniques, nos outils. Souvent, on a l'idée que on a une vision un peu complètement instrumentale où finalement on pourra en faire ce qu'on veut On est mis un peu de côté le fait qu'en fait il n'y a pas de neutralité technique, quoi. En fait, la technique, l'effet de la technique, puisqu'elle a été paramétrée pour atteindre un résultat, en fait, quel que soit l'usage qu'on en fait, elle va aboutir au même résultat dans tous les coups, quoi, hein. Donc il y a l'idée que la technique, l'effet n'est pas lié à l'usage, mais à sa structure, quoi. Et qu'en fait la technique, elle réifie, elle cristallise des rapports sociaux. Hein. Elle reproduit dans son processus matériellement des rapports de domination. Si on veut donner un exemple simple, par exemple, l'instauration de commandes numériques centralisées dans les usines, bah, quel que soit l'usage qu'on en fait, ça reproduit toujours le fait que les cadres sont éloignés des ouvriers au contact des machines. Et donc, ça reproduit, hein, ça réifie, ça chosifie des rapports sociaux à travers son déploiement, son processus. Et donc, on voit que les techniques, en fait, véhiculent des trajectoires, façonnent les champs des possibles. Hein. Il y a un petit adage populaire qui résume très bien ça, simplement, sans utiliser des mots compliqués, qui dit quand on a un marteau, tout ressemble à un clou. Mmh. Hein, c'est un petit peu cette idée-là. Bon, après, il ne faut pas faire l'apologie des adages populaires, parce qu'il y en a un autre qui dit on n'arrête pas le progrès. Donc, on peut faire dire ce qu'on veut aux adages populaires. Mais bon, le coup du marteau, il est pas mal quand même. Si on veut donner des exemples de déterminisme technique, hein, qui, encore une fois, polarise l'action, celui que j'utilise dans le bouquin, c'est celui de l'étrier. Hein, donc, l'étrier qui a été introduit par les cavaliers francs, Charles Martel, au 8e siècle. En fait, ça a vraiment bouleversé le rapport au cheval, la vision du cheval, hein, d'un cheval de trait qui servait à déplacer du matériel. Le cheval est devenu une arme, en fait, hein, pour la cavalerie. Et donc, ça a facilité la classe aristocratique. Hein, c'était le noble art de la guerre par le cheval. Et donc, à cause ou conséquence, l'étrier a précipité l'émergence de la société féodale. Bon, c'est un peu caricatural, c'est peut-être très déterministe ce que je dis là, mais il y a quand même cet effet qui est significatif, quoi, hein, sur une technique qui vient en fait avoir des impacts à la fois sur le rapport aux animaux, mais aussi sur l'organisation sociale. Puis si on poursuit, en fait, même au 15e siècle, les armes à feu apparaissent, et en fait, ces armes à feu, par leur simple nécessité technique, elles permettent une utilisation impersonnelle, interchangeable, des gens qui les manipulent, ces techniques. Et donc ça fait émerger une armée de métier, une armée de masse, et donc la conscription, en fait, de l'État moderne. Et donc on voit quand même que la technique peut polariser des évolutions sociétales. Et là, cet exemple de l'étrier opposé à l'arme à feu, ça, c'est deux conceptions de la politique un peu différentes qui se matérialisent. Si on prend un autre exemple qui vous parle bien, Monique et Serge, c'est celui du nucléaire. C'est quand même l'archétype de la technique qui n'est pas neutre et qui véhicule des choses, quoi. En l'occurrence, le simple fait d'utiliser la technique nucléaire, ça ne nous permet pas d'en faire ce qu'on veut en fonction de l'usage qu'on veut en faire. Le nucléaire, ça reproduit une organisation centralisée de la politique, adémocratique, parce que c'est une technique qui intrinsèquement est fortement intégrée, complexe, rigide, pilotable, et qu'il faut quelqu'un aux manettes et quelque chose de très centralisé.
Juste une parenthèse sur le sujet. Dans les grandes époques, enfin au début du nucléaire en France, les banderoles, c'était effectivement société nucléaire, société autoritaire, société policière. Ouais. Hein, donc les gens qui se bagarraient à l'époque étaient lucides par rapport à ce que tu dis.
Oui, c'est ça. L'autre société policière, c'est le fait qu'en fait, intrinsèquement, encore une fois, c'est pas quelque chose qui dépend de l'usage, c'est une technique qui est dangereuse, qui risque de détournement, il y a des considérations sécuritaires sur l'approvisionnement d'uranium, etc. Et ça nécessite, ça engendre une société militariste, policière. Et puis, il y a encore des impacts économiques qui sont liés à cette technique, simplement par le fait que c'est une technique qui nécessite des investissements massifs, une forte division du travail, donc une forte monétisation de l'économie. C'est une technique purement néo-capitaliste. Pourquoi néo ? Parce que ça sous-entend économie dirigée. Parce que dans un modèle libéral, ça ne marche pas le nucléaire. Hein. Il n'y a aucune industrielle privée qui finance ça, parce que c'est une technologie qui est non rentable. Donc, le nucléaire, c'est une technologie profondément étatique. Et donc là, c'est un bon exemple de déterminisme technique, c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi de nos techniques. Encore une fois, ça réifie des rapports sociaux et des modèles politiques.
Et économiques, hein, parce que c'est une énergie centralisée, avec tout ce que ça implique, enfin bon, de répartition d'énergie, enfin bon. Dans le détail,
C'est important de parler de ces, de donner des exemples, parce qu'en fait le discours un peu commun sur la technique, ça serait qu'en fait oui, on en fait ce qu'on veut. Voilà, les gens qui veulent justifier des évolutions technologiques aveugles, ils nous disent ah, mais c'est pas la technique le problème, c'est l'usage qu'on en fait. Donc en fait ça ne permet aucune réflexion sur ce qu'est notre outillage technologique.
Oui, juste une remarque, enfin bon, c'est évident je pense pour les auditeurs, mais quand tu parles des investissements dans la technique, etc., il ne faut pas oublier qu'un des plus grands investisseurs, bon, c'est l'armée, hein, dans tous les pays, qui s'intéresse fortement à l'utilisation des tactiques, enfin, ça recoupe un peu ce que tu as dit. Mais est-ce que tout ça, bon... Effectivement, il y a l'État, il y a les patrons, on ne va pas s'étonner de ce qu'ils font. Ils défendent leurs intérêts, hein. Ils ont des choses en main, ils utilisent. Hein, bon. Mais est-ce que par rapport aux gens qui subissent, ou qui n'ont pas forcément l'impression de subir, qui trouvent que, comme tu l'as dit, que bon, la technique, ça apporte toujours des choses. Et puis, de toute façon, si ça pose des problèmes, bah, une nouvelle technique va régler ces problèmes. Donc, c'est quelque chose qui se perpétue de plus en plus. Mais ce que je voulais dire, est-ce que ce n'est pas facilité tout ça par un mythe du progrès qui existe depuis pas mal de temps ? À la fois sur le plan politique, par exemple avec le marxisme, ça tu le cites, mais qui pénètre beaucoup de gens, et qu'on peut à la limite comprendre à une certaine époque, des choses qui ont amené quand même des choses aux gens, mais ce mythe-là, il y a un progrès tout linéaire, plus on avance, mieux c'est, sous-entendu, ce qui nous a précédé finalement, c'était pas terrible, donc ça permet de rejeter comme ça les peuples, etc. Donc il y a cette espèce de cette vision... de flèche vers le haut, là, qui m'a toujours inquiété.
Mmh. Bah, c'est sûr qu'il y a une sorte d'aveuglement face au déploiement technique, parce qu'il y a cette idée, déjà, que la technologie va régler tous nos problèmes, et puis ensuite, encore une fois, l'idée c'est que la technologie est neutre, donc que ce serait quelque chose d'essentialiser, quoi, que le concept de progrès, ce serait quelque chose qui existe dans la nature, quoi, sur lequel on n'a pas prise, on n'a pas impact, quoi. Et ça, c'est l'idée du progressisme, en fait, hein, qui est effectivement une philosophie de l'histoire. Tu parlais du marxisme, mais en fait, ça creuse aussi ses fondements dans le judéo-christianisme, etc. C'est cette vision d'une société linéaire qui évolue, hein, avec un principe de progression, un sens, l'avènement d'une société qui serait meilleure, en progrès, quoi, forcément mieux.
En plus, ce qui est en plus néfaste, c'est que cette notion de progrès avec un grand P, finalement, est-ce que ça vaut le coup, je sais pas moi, d'avoir des mouvements sociaux, d'espérer faire un jour une révolution, puisque le progrès avec un grand P va régler les choses. Bon, peut-être pour les marxistes, le parti va y aider, mais il y a un progrès, quoi. Le progrès, en fait, faut renvoyer aux individus et aux collectifs. C'est, par exemple, la phrase d'Élisée Reclus, j'aime bien, dans des sociétés, il y a des périodes de progrès, il y a des périodes de régrès. Tout dépend de plein de choses, de l'environnement, mais aussi des individus et des collectifs, quoi.
On en avait parlé lors de la dernière émission du rôle du marxisme là-dedans, mais c'est vrai que c'est intéressant de rappeler qu'il y avait une vision, enfin il y avait quelque chose d'un peu schizophrénique dans la pensée de Marx, entre le jeune Marx des Grundrisse qui est influencé par le romantisme allemand et du coup qui est sensible à ces effets de la technique sur la société, qui conceptualise l'aliénation sociale dans la technique, etc. Qui d'ailleurs, les analyses de ce jeune Marx reprises par l'école de Francfort, par Adorno, par Herbert Marcuse, tout ça qui ont poussé ces analyses de l'aliénation face à un vieux Marx, entre guillemets, du capital, qui lui, en fait, met complètement de côté ses analyses sur l'ambivalence de la technique et qui met en avant le développement des forces productives à tout prix. Bon, on l'avait un peu développé déjà la dernière fois.
On va terminer là-dessus, mais moi, j'en veux pas du tout à Marx, il a le mérite d'exister, puis il y a des tas de penseurs qui ont amené des choses, qui ont régressé ou qui ont progressé. Non, mais quand je dis marxiste, c'est le corpus qui a suivi et qui a été extrêmement prégnant, y compris dans toute une bonne partie de la classe ouvrière pendant très longtemps, et peut-être encore dans certains pays, et je pense que ça, c'est... Non, c'est bon. Moi, déjà, prendre le nom de quelqu'un et mettre isme derrière, j'aime pas. Mais bon, même si c'était mon nom, j'aime pas. Non, mais sans plaisanter, je pense qu'il y a une responsabilité de la pensée marxiste, pas que. J'ai pas dit de Marx, hein, marxiste, par rapport à justement cette mythe du progrès. Enfin, je pense que c'est dans le prolongement de la théologie de l'Église, quoi. Enfin. Je pense que c'est dans la même chose. Quoi. Ça, c'est dans la même chose, même si dans le cas du marxisme, on s'appuie sur les masses, etc.
Après, sur la perte de contrôle dont tu parlais aussi sur la technique, il y a un effet qui est lié à un autre paramètre de la technique qui n'est pas son absence de neutralité, mais le cloisonnement en fait, technicien. Hein, c'est le fait que en fait, la technique, elle est forcément simplificatrice dans un but d'efficacité. On va au simple, à l'efficace, et que ça aboutit aussi à une fragmentation du monde en discontinuité. C'est la surspécialisation en fait, hein, technicienne. Donc, moi, en tant que médecin, je vois ça en médecine. Hein, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus à un être humain.
Tu développes un peu sur la médecine, mais, quand même, ton domaine. Justement, là, tu parles, donne quelques exemples, quand même.
Oui, par rapport au cloisonnement.
La santé des gens, et en plus, il y en a qui ont de plus en plus de besoins, hein, au niveau psy, et notamment dans la période.
On le voit, une technicisation d'une discipline comme la médecine, ça aboutit justement à cette vision fragmentée, quoi, qui fait perdre une vision d'ensemble. On ne soigne plus un corps humain, une personne, on soigne un organe, voire un bout d'organe, et on aboutit à parfois des situations contradictoires où le surspécialiste va traiter un petit bout, et puis en fait ça va aggraver un autre organe, et en fait on perd la vision globale. C'est un effet qu'on retrouve aussi dans la technicisation des sciences sociales, cette perte de vision d'ensemble.
Et puis est-ce que par exemple l'échange, c'est une question, hein, entre un médecin aujourd'hui en hôpital ou pas en hôpital, avec quelqu'un qui vient, qui a des problèmes, est-ce que l'échange, c'est un humain qui parle à un humain, même si celui qui reçoit, il a des connaissances. Et je prends l'exemple du médecin de famille qui venait voir, pas ma grand-mère, mon grand-père, il n'a jamais été malade paysan. Mais il resituait bien les problèmes qu'avait ma grand-mère dans le cadre, évidemment, de la maladie qu'elle avait, le rhumatisme, mais il le situait tout à fait dans le cadre où elle vivait. Bon, je me rassure, elle n'avait pas de problème avec mon grand-père, mais enfin, tu vois, il venait à la maison, enfin, il y avait, et il tenait compte un peu de tout ça, quoi. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui?
C'est de plus en plus compliqué, puis il y a aussi le fait qu'il y a pour le coup, on parlait tout à l'heure des polarisations, des trajectoires scientifiques. Il s'est passé quelque chose en médecine aussi, c'est qu'on est passé d'une approche de la médecine qui était influencée par Galien, par la théorie hippocratique, la théorie du climat. C'était le fait qu'en fait, l'environnement était déterminant dans la santé, en fait. Hein. Et donc, on est passé d'une médecine hygiénique, sociale, préventive, à une polarisation vers les activités industrielles, lucratives, de puissance. Et en l'occurrence, c'est les biotechnologies, par exemple. Et donc, en fait, les retombées économiques attendues par les industriels, les gouvernements, ont abouti à un surfinancement des biotechnologies, et notamment du séquençage génétique, etc., qui a réintroduit en médecine un déterminisme génétique qui était un peu devenu désuet depuis les années 50, après la synthèse darwinienne, tout ça. On s'intéressait à nouveau, on en parlait, à l'épigénétique, à l'environnement, et on en est revenu à une vision très déterministe, uniquement parce qu'il y avait des applications industrielles derrière. Donc on voit aussi que on a perdu certaines visions plus globales du soin et d'autres déterminants de la maladie, notamment sa dimension environnementale et sociale, quoi.
Monique me fait signe qu'il faut qu'elle garde un peu de temps pour une autre séquence, donc je pense une petite pause musicale sera la bienvenue.
Il vous nomme selon son envie, petit ministre et par fantaisie. Il vous déguise à sa guise, tel un pantin sans chemise, en un sinistre bourreau ou en garde des sceaux. Avant les premières neiges, il fait tourner le manège, il peut vous mettre à genoux, c'est un roi un peu fou. On lui doit la misère au pays, la famine et les guerres aussi. Comme le diable, il s'amuse, usant de toutes les ruses. Il fait de vous le commis qui flatte ses folies. Oh, toute première neige, tourne, tourne le manège. Il peut vous couper le cou, c'est un roi un peu fou. dévorer d'un bel appétit. Les petits, mais en contrepartie, ne venez jamais vous plaindre que des ennuis sont à craindre. Quand le vent change de camp, ce serait inconvenant. Aux toutes dernières neiges, quand ralentit le manège, il est bien tard quelquefois pour regretter son choix. Car le peuple n'est pas endormi, il attend son heure et s'affranchit. Il sait que pour les supplices, le roi vous fit son complice. La main même du bourreau, n'ayons pas peur des mots. Quant à la fonte des neiges, on arrête le manège. Le ministre et le roi fou se mettent à genoux. Ce temps-là vous semble dépassé, triste jour à jamais effacé. Vous n'êtes pas responsable, ni ministre, ni coupable. Pourtant, par votre silence, vous faites en confiance planer sur le pauvre monde l'image d'un chef immonde qui peut nous mettre à genoux, comme hier, vous souvenez-vous. Qui peut nous mettre à genoux, comme hier, vous souvenez-vous.
Vous écoutez Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Donc, une dernière séquence avec Arthur Gerber, La fabrique du progrès, scientisme, système technicien et capitalisme vert. Donc, on est loin d'avoir traité tous les aspects, mais je pense qu'on n'a pas trop laissé de côté les choses essentielles. Bon, qu'il reste une dernière partie, en tout cas dans l'émission d'aujourd'hui. C'était le titre, et puis on va développer un petit peu le système technicien ou la dynamique interne de la technique, dans le prolongement un peu de ce qu'on a échangé avant la pause.
Ouais, alors ce concept de système technicien, il remonte à Ellul, en fait, hein, à Jacques Ellul, qui est un sociologue de la technique, et donc qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est d'ailleurs le titre d'un de ses bouquins sur la technique. Quelque chose qu'il a travaillé dès les années 50, donc qui était quand même très novateur par rapport à l'époque où le milieu universitaire était plutôt influencé par le marxisme, l'analyse, l'économisme, etc. Et donc lui a essayé de mettre en avant les dynamiques propres en fait à la technique, dans un temps où c'était plutôt le consensus gaulliste, communiste pour le déploiement industriel. Il a essayé de réfléchir à cette société industrielle. Et donc Ellul, il essayait de discerner plusieurs choses. Donc il faisait une distinction entre l'opération technique, hein, qui est l'utilisation du moyen technique en tant que tel, qui ne cause pas problème, évidemment. L'idée, c'est pas de supprimer la technique. Et ce qu'il appelait le phénomène technique. Et le phénomène technique, c'est une prise de conscience sur cette opération technique, et c'est la recherche du meilleur moyen dans tous les domaines. Hein. C'est la préoccupation d'optimiser en toute chose l'efficacité et de privilégier la technique, l'application de la technique à tous les domaines de la vie, quoi. Ce qu'on pourrait aussi appeler le technicisme, qui est un phénomène social, du coup, hein, qui est pas lié simplement à l'opération technique. Et donc ce qui montrait, c'était l'exclusivité de ce phénomène technique, c'est-à-dire le fait que la technique devenait envahissante et commençait à remplacer tout autre rapport à la nature, et une stabilité qui était liée au caractère ordonné de la technique. Ça instaure ce que Ivan Illich appelait, lui, un monopole radical, c'est-à-dire que l'outil programmé évince le pouvoir-faire de l'individu. On en vient à un peu stériliser l'existence et à tout passer dans la moulinette de l'efficacité, quoi, de la recherche technique à tout prix. Et Ellul donc a eu le mérite d'introduire ce nouveau paramètre d'analyse et d'analyser quelque chose d'encore plus plus profond, qu'il conceptualisait donc comme le système technicien, c'est le fait que la technique était en partie autodéterminée. les méfaits de l'industrialisation ne venaient pas de la corruption capitaliste, hein, comme disaient les marxistes, mais obéissaient à une logique propre, une sorte de circularité de la technique qui s'autodéterminait. Et donc c'est ça qu'il a appelé le système technicien, qui est lié en fait à l'interconnexion croissante de toutes les techniques, qui érige ce phénomène technique en véritable système, hein, qui est une relative autonomie. Alors ça résulte en fait de plusieurs choses. D'abord, d'une nécessité de coordonner toutes ces techniques qui se déploient dans la société pour que le système reste efficace. Et donc, il y a l'idée d'intégration technique. Et ça nécessite en fait un grand travail de standardisation pour que le système reste fonctionnel. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a un impératif fonctionnel propre à la technique qui nécessite une mise en connexion, un travail de standardisation massive, que ce soit des supports matériels du système technicien, mais aussi des informations produites par le fonctionnement technologique.
Sur Internet, par exemple, si on envoie des bits, en fait, ça qu'on envoie, il faut qu'il y ait quelque part une norme qui dit comment elles sont organisées pour comprendre ce qu'il y a. C'est simple, mais il a fallu des rencontres internationales et tout ça.
Exactement. Donc, standardisation, c'est matériel, c'est ce que tu dis, hein, les câbles, la connectique, les ports USB, les formats des programmes, des pilotes, etc. Mais c'est aussi, oublier la composante immatérielle des techniques. On peut penser par exemple à la mondialisation, à l'uniformisation politique dans des techniques bureaucratiques également qui se disséminent pour des raisons aussi, d'efficacité, de la coordination, du commerce mondial, des États, etc. Et donc il y a un déploiement technique dans tous les sens. Ce but de coordination technique engendre ce système technicien. Ensuite, il décrivait un autre paramètre, une autre caractéristique de système technicien qui était l'auto-entretien. Tu l'évoquais tout à l'heure petit peu déjà, Serge, c'est que en fait le système il s'alimente lui-même de ses propres échecs. On crée des emballages jetables, du coup on va fabriquer des usines de recyclage. Il y a une congestion automobile, on va créer des routes et qui vont créer plus de voitures. Il y a de la pollution plastique, du coup on peut plus boire l'eau du robinet, on boit de l'eau en bouteille en plastique. Il y a des trucs. Cette espèce d'effet d'emballement et d'auto-entretien. Et en fait, toute perturbation du système appelle une sollicitation du système pour qu'une nouvelle technique règle le problème, ce qu'on appelle le solutionnisme technique. Ce qui est intéressant, c'est ce que Ellul décrivait, c'est que dans cette dynamique-là, il n'y a pas de crise hégémonique entre la machine et l'homme, quoi. C'est-à-dire que cette évolution, elle ne se fait pas contre l'humanité, mais en fait sans l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'absorption de l'humanité dans la technique. On astreint l'homme à une nécessité d'efficacité technique qui n'est plus en lien avec ses préoccupations à lui, ou soit individuelles ou collectives, quoi. Et ça, c'est inquiétant. On voit par exemple la robotisation complète qui met les gens au chômage. Mais finalement, est-ce que on n'a pas envie de travailler aussi, de garder un peu la main mise sur la production? Ou bien des logiques technocratiques, je parlais des techniques immatérielles, comme par exemple la règle de la neutralité budgétaire. Déterminant technique qui va passer au premier plan avant, par exemple... le fait que les Grecs ils crèvent de faim pendant la crise de la dette souveraine, peu importe, c'est la neutralité budgétaire, c'est la technique de gestion qui passe en premier plan.
Et puis il y a une chose que tu évoques aussi, moi j'y suis assez sensible, c'est pas plus important que le reste, mais qu'il y a une surspécialisation, y compris dans les métiers d'ingénieur, c'est-à-dire que on est très bon on peut être bon dans un domaine donné, mais à la limite on se pose même pas la question de ce qui passe dans les domaines adjacents. Ce qui fait que des fois on peut travailler sur quelque chose, on ne sait même pas finalement à quoi va servir tout ça. Enfin, si on remonte un peu dans le temps, c'est le projet Manhattan où il y a des centaines de milliers de gens qui ont travaillé. Il y avait quelques-uns qui savaient que c'était pour faire une bombe, mais il y en a qui étaient dans des petites unités qui travaillaient sur tel ou tel domaine, etc. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'il y a... Moi, c'est quelque chose qui me paraît toujours important quand on travaille, c'est de se poser des questions sur l'utilité sociale de son travail. Mais ça implique d'avoir une vision un petit peu qui est hors de sa spécialité, bien carré, quoi. Bon, enfin, j'incite là-dessus, mais tous les autres plans sont intéressants, mais c'est pas ce que moi j'ai vécu, c'est pour ça.
Non, mais t'as raison, c'est ce dont on parlait déjà un petit peu avant, quand on parlait du cloisonnement technicien, en fait. Hein. C'est cette spécialisation qui fait perdre toute vision d'ensemble. Et là, moi, je parlais de la médecine tout à l'heure. Là, t'évoques plutôt le domaine social. Mais c'est vrai que, par exemple, dans les sciences sociales, c'est une catastrophe. Et là, il y a l'effet de la statistique aussi. C'est qu'en fait, on en vient, par technicisation des sciences sociales, à décrire, en fait, à être bêtement descriptif des structures sociales existantes, sans se poser la question, se poser la question de ce qui est au lieu de ce qui pourrait être ou ce qui devrait être, pour la simple et bonne raison que c'est dans une logique d'efficacité encore, et non plus de réflexion, d'analyse critique, de poésie, de sensibilité, d'autres modes.
Ce qui nous fait humains, quoi.
Exactement. Donc c'est ce côté d'absorption de l'homme dans la technique. C'est ce que Gunther Anders il appelait l'obsolescence de l'homme. C'était une belle formule, mais c'est un petit peu ça que décrivait aussi Ellul quand il parlait du fait que les évolutions du système technicien se faisaient sans l'homme, en fait, et pas contre l'homme.
Oui, d'ailleurs, tu prends des sous-chapitres dans ce que tu évoques. Là, tu dis la technique donc prédomine sur l'éthique. Bon, le projet Manhattan, Morimoshima, je crois que c'est pas la peine de développer. Tout le monde aura bien compris. Et la technique aussi prédomine sur la politique. Donc, tu veux développer un tout petit peu là-dessus. Comment l'État, si tu veux, utilise tout ça. Enfin, tu vois.
C'est le côté un peu impénétrable du développement technique, comme l'analyse Jacques Ellul sur le système technicien. On ne veut pas être contradictoire avec ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, il y a un déterminisme politique qui polarise encore une fois les évolutions technoscientifiques, mais pour autant, et c'est ce qu'intéresse Ellul, il veut analyser, sans prendre en considération ces éléments extérieurs, en quoi la technique évolue en fait en partie toute seule, selon des déterminismes internes. Et ça, c'est ce qui aboutit au fait qu'elle soit... Elle évolue un petit peu vers une dépolitisation, parce que en fait, la recherche technique, elle est conditionnée encore une fois par une nécessité d'efficacité, et donc pour être efficace, on a besoin d'utiliser les méthodes matériellement existantes. Et donc, il y a une sorte de conformisme technique qui, du coup, se met en place, ce que Jacques Ellul appelle une pression sur les arrières, pour des simples considérations techniques, et du coup, ça évince la politique de l'équation. Tout ça conditionne, en fait, l'avancement encore de la technique de façon orientée, sans le politique. Dans le livre, je prends l'exemple du projet nucléaire de Gaulle. De Gaulle, il a voulu politiser la question du nucléaire pour sa conception de la souveraineté nationale en France, etc. Il a voulu développer une filière française.
J'ai dit clairement, d'ailleurs.
La filière UNGG, graphite-gaz. Il le voulait pour des raisons politiques. Donc il a foncé tête baissée dans cette technologie, alors que en fait la technologie qui prenait le pas, c'était la technologie américaine qui s'était déjà répandue. Et encore une fois, pour des raisons systémiques d'interconnexion entre les filières d'approvisionnement en uranium et ces réacteurs UNGG en concurrence avec les réacteurs à eau légère américaine. En fait, cette technologie, elle s'insérait mal dans le système nucléaire international. Ce qui fait que ça aboutit à un échec en partie pour des raisons techniques. Alors après, il y avait aussi des déterminants économiques là-dedans, parce qu'elle n'était pas concurrentielle avec
notamment le brevet Westinghouse. Les fortes puissances. Mais ceci étant, on ne peut pas savoir. Peut-être qu'ils avaient continué les études. Bon. Enfin, en tout cas, il y avait un lien direct. Mais ça, De Gaulle, ça n'en est pas caché. Ça a été dit clairement que par rapport aux États-Unis, ils voulaient, etc. Et ça a été effectivement les débuts, compris la lutte pour la bombe atomique. Il ne faut quand même pas oublier, quand on dit nucléaire, on pense aujourd'hui aux centrales, mais en fait, ça a démarré dans tous les pays qui auraient la bombe en premier. D'ailleurs, quand on lit les journaux de l'époque, quand il y a eu Hiroshima, bon, il y a les journaux qui se vantaient, oui, mais attention, il y a eu Joliot Curie, et il ne faut pas oublier, c'est un Français qui a fait les points des études approfondies sur le nucléaire, etc. Et les lendemains d'Hiroshima, hein, je ne sais pas si tu as lu les titres de la presse, c'est génial, combat.
Oui, il y avait Camus, oui.
Il y avait Camus. Donc, on voit là, ça, directement, le lien entre une certaine technique et des choix politiques. C'est complètement, hein, complètement évident.
Bah, par rapport au rapport à la politique, ce que décrit Ellul, c'est qui peut paraître un petit peu fataliste, mais c'est pas le cas quand on connaît sa pensée politique complète. C'est une forme d'irréformabilité en fait du système technicien. Et ça, il l'analyse encore une fois dans sa vision systémique de la technique, liée à l'interpénétration et la dépendance des sous-systèmes techniques. En fait, toute modification partielle devient complexe, voire impossible, parce que tout est interconnecté. Par exemple, le réseau ferroviaire, il a besoin du réseau électrique, et celui-ci, il a besoin du réseau d'approvisionnement énergétique, etc., en cascade. Et donc, théoriser la réorganisation d'un sous-ensemble technique à partir de zéro, en fait, c'est très complexe, voire impossible. Et ça, c'est toutes les impasses des discours là, transitionnistes, où on dit qu'on va faire une transition écologique en changeant de mode énergétique. Et les travaux de Fressoz là-dessus qui sont intéressants, un bouquin qui s'appelle Sans transition, où il montre bien que en fait on ne peut pas passer d'une technique énergétique à l'autre. Il n'y a jamais eu de substitution
intrinsèquement.
C'est des histoires d'addition et de synergie en fait, à cause de cette interpénétration dans le système technicien. En fait, on n'est pas passé du bois au charbon, par exemple. En fait, on s'est servi du bois pour faire des étés, pour soutenir pour faire des poutres, pour soutenir le fait d'aller chercher du charbon. On s'est servi du pétrole pour augmenter la productivité du charbon grâce aux machines, à la mécanisation, aux bulldozers, aux mines à ciel ouvert, etc. Donc en fait, il y a eu un déploiement technique dans tous les sens, avec des synergies entre matériels qui sont là et qui empêchent de passer, de transiter d'une énergie à l'autre ou de retirer une énergie. Par exemple, c'est le côté, encore une fois, on va nous paraître monomaniaque sur le nucléaire, mais c'est encore le côté, un des arguments complètement hors sol du nucléaire. On nous dit que le nucléaire va remplacer les autres modes énergétiques. Oui, mais le nucléaire, pour le déployer, on a besoin du pétrole pour aller chercher l'uranium à l'autre bout du monde. On en a besoin pour construire les centrales qui sont en béton. Enfin, en fait, on ne peut pas réfléchir à réformer une des parties du système, puisque tout est interpénétré. C'est ça ce qu'Ellul décrivait dans sa notion de système technicien. Ça, c'est une des choses qui est au cœur, en fait. C'est ces difficultés, cette irréformabilité interne du système pour des raisons d'interdépendance.
Oui, bah, de toute façon, sur le nucléaire, il faut voir que le nucléaire, aujourd'hui, en gros, c'est 10% de l'électricité dans le monde et 2% de l'ensemble de l'énergie. Donc, c'est complètement du pipeau. Même s'ils voulaient faire des investissements, je ne sais même pas les chiffrer, pour tout remplacer. C'est ce que tu dis, quoi. Ça sera le surajoute. Effectivement, ça développe les intérêts d'une partie du capitalisme qui, enfin, encore maintenant, ils trouvent que ça coûte quand même un peu cher.
Ouais.
Mais tous ces types d'énergie, c'est des intérêts économiques ou politiques.
Puissance, ouais.
Et donc, il faut pas... Le pétrole, il est encore là. Hein. Le nucléaire l'a pas du tout remplacé, etc., etc., quoi. Donc, effectivement, on peut difficilement... Enfin, le retour du raisonnement, c'est que on peut difficilement imaginer modifier ce système technicien sans modifier fortement la société dans laquelle il survit, enfin il fait plus que survivre d'ailleurs, il se développe.
Ça, c'est clair. En fait, plutôt que d'imaginer réformer en interne, il faut comprendre qu'en fait, pour pouvoir bloquer ces évolutions du système technicien, parce qu'il n'y a pas de fatalisme, en fait, ça serait le fait de de refuser déjà la technicisation intégrale de la société, en fait, hein, d'aménager des espaces de liberté, d'initiative, d'expérimentation sociale, de jugement démocratique sur les techniques, pour contraindre leur déploiement, pour remettre en avant, encore une fois, d'autres rapports au monde que l'efficacité à tout prix. Parce qu'en fait, le sens de notre vie...
En plus, c'est un mot dont je méfie. Efficacité au nom de quoi? Au nom de l'humain? Ou au nom du capitalisme? Ouais, au nom des intérêts de fric? Bon, c'est dangereux ce mot, l'efficacité. Ouais, ouais. Ça dépend quel est le but, quoi.
Tout à fait. Non, mais c'est clair. L'efficacité en tant que telle, il faut la rechercher. En fait, c'est ce que je rappelais tout à l'heure dans la définition de la technique. Hein. Une technique, c'est un moyen pour une fin, dans un but d'efficacité. Évidemment, on a besoin d'efficacité dans certaines choses dans notre vie. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est encore une fois, c'est pas à la technique en tant que telle, c'est encore une fois, c'est le phénomène technicien, ce que va appeler Lulin, hein, le fait de privilégier la technique dans tous les domaines. Oui, on a besoin d'efficacité, notamment dans nos moyens de production, etc. On a besoin quand même d'être efficace. C'est pas une valeur à mettre entièrement à la poubelle, mais ce qui est dangereux, c'est de l'absolutiser, hein, de faire comme si c'était le but absolu dans tous les domaines. Alors que c'est faux, évidemment. Pour défendre nos libertés, parfois, on peut peut-être prôner des systèmes politiques moins efficaces. Parce que c'est quoi l'efficacité politique absolue? C'est l'État.
Au niveau d'un individu, maintenant, il faut toujours aller plus vite ailleurs, réfléchir plus vite, avoir des solutions plus vite. Monique me fait signe qu'il m'arrête, mais ça va durer 30 secondes. Moi, le cerveau humain, l'humain, il a peut-être besoin de journées où il va pas vite, il pense à rien, il est dans un champ, il regarde. Et ça veut pas dire qu'il va pas sortir de là. Il y a des choses qui se passent, mais ça va tellement vite que, enfin, tu vois, ça aussi, ça fait partie de notre vie. Aller vite, en tout cas, moi, je vais pas trop vite, mais je vois des gens autour de moi qui arrêtent pas de courir. Ils sont toujours, ils savent tout sur tout avec Internet. Enfin, c'est. Et en même temps, où est l'efficacité en tout ça? Ben, pour le capitalisme peut-être, mais pour les individus, je sais pas. Moi, en tout cas, c'est pas ça qui me tente.
Oui, mais comme tu le dis, quelque chose d'important, c'est que, encore une fois, la technique, un moyen dans une fin, avec une efficacité pour atteindre cette fin. Ouais. Mais quelle fin? C'est ça la question, en fait, d'accord? C'est effectivement, tu le dis. L'efficacité, elle est partielle, en fait, hein, et elle dépend aussi, encore une fois, de ce qu'on se donne comme objectif dans notre société. Et c'est là que c'est important de rappeler, et peut-être qu'on finira là-dessus, Monique, c'est que la philosophie technocritique dont j'essaie de parler dans le livre, c'est pas un rejet en bloc de la technique, hein, c'est une réflexion sur les conséquences de nos choix techniques et ce qu'on se fixe comme objectif collectivement à atteindre. Et donc, c'est repolitiser nos trajectoires technoscientifiques. Et donc pour ça, et je terminerai là-dessus, c'est... on peut se redonner la technique, la définition de la technique juste selon Ivan Illich, parce que ça permet de se fixer un cap, encore une fois, dans cette politisation, ces choix techniques. Hein. Une technique juste, c'est une technique qui est génératrice d'efficience sans dégrader l'autonomie personnelle, qui suscite ni esclave ni maître et qui élargit le rayon d'action personnelle. Et donc à partir de là, c'est une sorte de recette pour se dire comment est-ce qu'on sélectionne des techniques et comment est-ce qu'on réfléchit à la diffusion des techniques dans nos sociétés.
Voilà, moi je rappelle juste le titre du bouquin, La fabrique du progrès, scientifique, système technicien et capitalisme vert, avec Arthur Gerber, qu'on remercie beaucoup d'être venu nous voir.
Merci à vous, c'était un plaisir, comme la dernière fois.
Merci, au revoir.
Regardez, il neige. L'hiver tombe sur nos contrées. Le soleil est bas. Les arbres ont maigri. On voit apparaître au-dessus des fenêtres une marionnette rouge à barbe dansée. Les gamins d'Occident, s'ils ont été gentils, auront plein de cadeaux. Mais ce personnage qui paraît tendre, où est-il de janvier à décembre? Toute l'année, il fait fabriquer ses cadeaux par des ouvriers de 10 ans en entrepôt qui, pour faire ce qui finira sous le sapin, n'iront jamais à l'école et ne liront rien.
Hey! Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa hotte et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse arme et gorge ses rennes, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN.
Pour s'accaparer les matières premières, le Père Noël entretient la corruption et la misère dans ses anciennes colonies où il a toujours les meilleurs prix.
Le pétrole qui fait ce qu'il plastifie finit parfois dans la mer sans qu'on s'en méfie. Et quand il sert à livrer ses joujoux par milliers, il dérègle le climat du globe.
On dit qu'il passe par tous les toits.
Dommage qu'au Burundi y ait pas de cheminée.
Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa robe et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa robe et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN.
Père Noël distribue les boîtes de chocolat, les tranches de saumon, les blocs de foie gras.
Se perpètent les panses des porcs à perpète,
qui rit comme des morts et appelle ça les fêtes.
En novembre, ils vendent des figurines de G.I.
Des tanks et des canons pour la marmaille.
L'arsenal se collectionne.
Les parents qui trient auront-ils la maille?
Voici décembre, c'est parti.
Les Barbies descendent en rappel dans les caddies.
Blondes squelettiques ne pensant qu'aux 4-4 de Ken.
Et ces jeux vidéo qui tombent de la haute donnent-ils aux ados le sens de la lutte?
Génération vertueuse en virtuel, qu'aura-t-elle fait de bien dans le monde réel?
Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa robe et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa robe et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN.
On ramasse des cadavres chaque matin en Inde. Ça n'empêche pas le Père Noël de gaver ses dindes.
D'arroser les âmes pour que l'ivresse oublie que plus de 5 milliards d'hommes n'ont pas ce mode de vie.
Que les brevets des médicaments valent de l'or.
Plus de valeur en tout cas que des millions de morts.
C'est le pervers Noël et sa supercherie vénale qui te fait supermarché dans les hypermarchés.
Je le croyais polyglotte, est-il complètement bête pour ne pas pouvoir répondre à toutes les lettres et les requêtes?
Je croirais bien plutôt qu'il préfère les chiffres aux lettres
et le verbe avoir
aux verbettes
et les riches et les prêtres.
Homme d'affaires irréprochable, cherche personnage impeccable avec sentiments charitables pour mascarade en guise de fable.
Dans sa robe, et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa robe, et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. Si tu vois le Père Noël, hey!
Eh, hey, vous battez! Tu sais pourquoi les enfants chinois pour pas au Père Noël? Parce que c'est eux qui fabriquent les jouets.
Trou noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.